Vous êtes adolescent. Vous êtes né dans les années 80. Alors, il y a un problème de temporalité, mais vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche 80s. Dans le parlons péloche 80s aujourd'hui,
il sera question.
Bah oui, on en est là. Des teen movies. Le teen movie désigne un genre cinématographique majoritairement américain ayant à la fois l'adolescence comme sujet et les adolescents comme personnages et comme public comme cible. Les années 80 sont la décennie de l'explosion du nombre de films pour adolescents, dont notamment ceux de John Hughes qui, tout en restant des comédies, renoue avec les interrogations existentielles des personnages sur leur adolescence. Et c'est également à partir de cette décennie, les années 70 et 80, que le genre teen movie va commencer à flirter avec d'autres genres, comme l'aventure, la comédie musicale, la science-fiction, la comédie grivoise, mais ça, tout ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons...
C'est quoi une comédie grivoise ?
Porky's, par exemple, que je n'ai pas vu. Oh. Voilà, c'en est une. Voilà.
Un truc crade.
Demande à David, c'est son domaine, le grivois. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un teen movie sorti dans les années 80. Nous nous demanderons également ce qu'était ce genre, en donnant nos impressions sur trois teen movies majeurs sortis sur cette période. Et c'est après avoir parlé de nos teen movies 80s de référence qu'Antoine nous fera revivre, avec sa chronique, l'espèce de ventre mou gênant et angoissant que l'on ressent quand les notes du premier slow résonnent au bal de promo et qu'un mec qui sent un peu le caca, la merde, s'approche de toi pour t'inviter. Mais bon...
Hey, c'est ma crème de jour.
Anti-acné.
C'est de l'eau jeune, c'est ça?
C'est de l'eau précieuse.
Mais non, frère, c'est...
Bon. Il s'est chié dessus. Hein.
T'es tout rouge, Antoine, on le sait. Mais pour parler des teen movies des années 80 autour de la table, vous le connaissez sûrement, car à la surboom de Vanessa, il a chopé Noémie alors que Lison voulait trop sortir avec lui et du coup elle a trop crisé. C'est Tristan, bonsoir Tristan.
Désolé Lison.
Vous le connaissez sûrement, car pour pécho, il n'hésite pas à dire à ses futures conquêtes « Hey, ça te dit ce soir, on va en disco club ?» C'est David, bonsoir David.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous le connaissez sûrement, car son rire a la particularité de ne pas encore avoir mué, c'est Antoine, bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous la connaissez.
Et ils ont le même bonsoir, David et
Antoine. Je lui ai piqué
ouais, apparemment. Ouais.
Il va falloir que j'en choisisse un, je ferai un sondage Twitter.
Après, en tant que sous-merde, je pense que c'est moi qui l'ai piqué. Mais dans le mur.
En tant que sous-merde, il démarre cette phrase. En tant que sous-merde, personnellement.
Et après, on se fait accuser d'être méchant avec
toi. Oui, non, c'est vrai. Non, là, je cherche. Mais c'est parce que je suis content de vous revoir.
Mais c'est ça, on est content, on est heureux.
Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Vous la connaissez sûrement, car elle a été élue reine de promo en 1988 dans la High School University of Maubeuge. C'est Béa, bonsoir Béa.
Bonsoir Thomas.
Et enfin, vous le connaissez sûrement, car c'est lui qui a importé le concept de quart d'heure américain dans le milieu échangiste. C'est Fouad, bonsoir Fouad.
Salut Thomas.
Et bien, c'est tellement crédible.
C'est de plus en plus proche de la vraie vie, parce que je fais comme Van au début. Et bien maintenant que j'ai fait le tour de la table, on se prend un cacolac, on met notre veste en bout de jean, on prend la 4L et direction la boum de Sophie avec la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'était. Je n'en peux plus de parler en péloche. Je vais bientôt. Je propose mon poste. Qui veut me remplacer à la tête de l'émission? On sait qu'en interne, il y a des bisbis, des trucs. Réveillez-vous sur la twittosphère. Question. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'était le teen movie dans les années 80 à travers les yeux de nos chroniqueurs. Ces magnifiques personnes autour de la table depuis déjà plus de 80 numéros, nos chroniqueurs, pour savoir quelles sont nos motivations. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à mater un teen movie datant de cette période? Je l'ai dit dans l'introduction. Le teen movie, c'est quoi? C'est avec des adolescents, c'est pour les adolescents, et ça parle de l'adolescence, mais pas que. On y mettra des nuances aujourd'hui. Pour vous, autour de la table, qu'est-ce qui symbolisait ce genre dans les années 80? Je pense que le bâton de parole doit directement aller à Antoine, qui partage avec lui-même déjà la passion pour John Hughes, n'est-ce pas Antoine?
Exactement.
Iconoclaste des années 80.
Tout à fait, je suis un grand fan de John Hughes, et pour moi, le teen movie, peu importe l'époque, ça reste toujours le passage un peu à l'âge adulte, l'abandon de l'enfance, l'émancipation. Et avant tout, dans les années 80, on est aussi dans une période qui est post-guerre du Vietnam, post tout ça. Donc on a un peu zappé ces films et on arrive vraiment sur c'est quoi la jeunesse d'aujourd'hui, quoi.
Post-révolution industrielle,
ouais, post-révolution.
Aussi.
Post-alésia, post...
Ah,
y a...
Il y a du background, quoi.
Ouais, il y a du background, tu vois. Et vraiment, ça va chercher là-dessus sur quelle est la jeunesse contemporaine, en fait. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les pousse à aller plus loin. Et je trouve ça ultra intéressant de voir des petits jeunes parfois être confrontés à des rythmes sociaux, à des classes sociales ou autres, et essayer en fait de comprendre pourquoi, en fait. Ouais. Pourquoi on peut pas juste être soi-même, pourquoi on est obligé de passer par des codes, et comment s'en dépêtrer. Voilà.
C'était qui le Antoine adolescent, finalement ? J'ai envie de faire un peu chialer notre audience. C'est quoi le nom de ta première amoureuse, par exemple, à l'époque ? Là, pour ton premier crush, pas forcément qui t'a dit oui, mais...
Ce serait un fréquent star, quoi. Et il était comment, l'Antoine adolescent ?
Oh, c'était Pauline.
Ouais. Pauline. Bon, Pauline, si tu nous écoutes, eh bien, tu es passé à côté d'un chic gars. Je te le dis, Pauline. Pauline,
t'es en direct sur Europe 2.
On est en direct sur... C'est Christophe Bourdin, Jean-Jacques Bourdin ? Philippe Bourdin, Jean-Jacques Bourdin ?
C'est Doc Eddie Fool.
Voilà. Merci Antoine pour ce témoignage.
Mais je t'en prie. Oui, c'est vraiment juste un prénom, tu vois, ça n'a strictement aucun intérêt,
mais
un moment de radio.
Tu l'as dit d'une façon qui était
très amoureuse.
Ouais, moi, je chiale.
On a déjà de l'affection pour Pauline, hein, finalement, et Pauline reviendra beaucoup ce soir dans l'émission. Béa, le teen movie des années 80, déjà, est-ce que c'est une période... Ah, Antoine.
J'ai l'impression que c'est un bataillier fontaine, elle est derrière le rideau, c'est ça.
C'est pas... Alors, c'est...
Regardez cet écran, Antoine.
La particularité, c'est qu'il n'y a pas de rideau chez moi. Il y a déjà un ingrédient qu'il ne faut pas, et il n'y a pas Pauline non plus, donc je préfère décevoir personne. Béa, qui, dans la vie, a connu une adolescence, on m'a dit sucré-salé, apparemment. Béa, avant de nous dire ton premier crush, parce que toi, tes histoires d'amour, il y a toujours il y a plein de trucs, et on se souvient tous de Vincent Elbouz, hein, le sosie de Vincent Elbaz qui vantait la moquette chez Confo. Béa, oui. Est-ce que t'aimes les teen movies des années 80 ?
Oui, alors en fait, le truc, c'est que en fait, c'est vraiment mes premiers émois d'adolescence, en fait, puisque j'étais quelques années quand même plus jeune que les protagonistes de ces films. Ouais. Et en fait, quand je regardais ces films, pour moi, c'était la vie que j'allais avoir plus tard, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment... je les regardais en me disant « Oh là là, mais en fait, tout ça, ça va m'arriver. » Donc voilà, il y a du fun, il y a des problèmes existentiels, des amours contrariés, des amitiés, des envies de liberté. Donc c'est ma vie, quoi. Moi, je dis toujours, je veux vivre comme au cinéma. En fait, je suis restée bloquée sur cette époque, en fait. Et comme tu disais, c'est... la boum, on va en parler, hein, mais ouais.
Est-ce que t'as chopé sur la boum, Béa ?
Sur la boum, non.
C'est Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que t'as chopé sur la boum ?
Mais non, parce que encore une fois, j'étais quand même plus jeune que les gens. Donc...
Non, mais sur cette musique, pardon.
Ah, sur cette musique. Oui, sûrement.
On a bien fait des petits échanges salivaires là-dessus. Allez. Oui, non, pardon, j'ai coupé du net, c'est comme ça que...
Ah oui. Non, mais comme disait Antoine, ce qui est intéressant, c'est la description de cette période charnière où l'enfance est un peu mise en danger.
Parfois charnière.
Voilà. et puis on l'autodétruit, en fait, on passe à autre chose et voilà, donc c'est beau.
Et le nom de ton premier crush ?
J'avais 6 ans et il s'appelait Arnaud. Mais sinon, le premier crush pour les bisous, tout ça, Sébastien.
Jean-Pierre.
C'était un loubard. C'était le cancre de...
Un loubard.
C'était un loubard. C'était le cancre.
Et il avait un
de...
couteau papillon.
C'était un blouson de cuir.
C'était le cancre de ma classe. Il avait un blouson de cuir.
Il avait une chaîne de vélo dans la main.
Et il s'appelait Sébastien.
Il avait fait une sarbacane avec son effaceur.
Je donne un défi à n'importe qui nous écoute. Tu fais une description Tinder en mettant juste « je suis un loubard ». Et tu vois, tu vas ramasser de la grams.
Moi, j'y vais direct. Hein.
Donc, un loubard, un cancre, toi, t'aimes bien les
bad boys.
Les bad boys.
Genre, le mec à 6 ans, c'est un loubard. Violent, quoi.
Non,
ultra violent.
À 6 ans, c'était un petit bouclé blondiné.
Qu'est-ce qu'il devient ?
Arnaud. Écoute, je sais pas. J'imagine qu'il est comptable, je sais pas.
Il est sorti derrière la porte, Arnaud, qui arrive maintenant.
Bonjour, c'est Arnaud.
Ça me fait bizarre de te voir, Béa.
Non, je préférerais le loubar Sébastien.
Sébastien. Donc Sébastien, si tu nous écoutes, sache qu'il y a encore moi avec Béa.
Il est soit en prison.
Open.
Il est en prison, oui.
Probablement. Probablement. David, comment on devient un adulte si...
Médiocre.
Mettez un adjectif que vous voulez.
Question. Il fait tellement chaud ici.
Il fait chaud, mais en même temps, j'ai envie de te dire...
Forever.
Il faisait ça aussi dans les booms, hein. On va avoir chaud, les amis, pendant plus d'une heure. Et c'est ça, le destin de Parents Péloche. David, pourquoi t'es devenu un gros porc? Non, est-ce que toi, je sais que voilà, John Hughes, ça te parle?
Ah bah oui, moi, John Hughes...
Il n'y a pas que lui, mais on va parler de lui aujourd'hui.
Je suis extrêmement fan de John Hughes, mais vraiment le John Hughes des années 80, parce qu'après, au final, il n'y a plus fait grand-chose. À part Bébé en vadrouille, qui est un chef-d'œuvre.
Ah, j'ai jamais vu celui-là.
Ah. Non, c'est de la merde. Non, mais pour les années 80, moi, moi j'adore les films des années 80 et les teen movies des années 80, ils sont géniaux parce que c'est toujours à peu près sur le même principe, tu vois, c'est les mêmes schémas. Moi, j'adore les blagues de vestiaire, donnez-moi des moments gênants, des choucroutes. Et moi, j'adore. Toutes les femmes, elles ont des choucroutes sur la tête. Hein,
ah oui, je pense que l'aliment.
Ouais. Je me disais, tu fais une choucroute maintenant. Garni,
hein, les années 80.
En fait, les brushings des années 80. C'est extraordinaire.
On enregistre deux numéros d'un coup, vous le savez, c'est les coulisses. Et là, c'est le premier. Et on fait un deuxième sur les films d'Alsace-Lorraine. Donc c'est pour ça que David a un petit peu confondu. Voilà.
Et puis, donnez-moi du synthé, des fringues fluo. Mais en même temps, avec tout ce folklore, tu avais aussi, comme tu disais, Antoine, des révélations sur l'état du monde, des crises existentielles, du mal-être et en même temps du super cool. Et c'est ça que j'adore, c'est le mélange des genres.
Et c'est vrai qu'on... Je me permets de continuer ta phrase, en partie ce que tu viens de nous dire. Je poserai la question de ce soir, de savoir pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui en tout cas on manque de films qui essayent de faire un portrait de ce qu'est l'adolescence aujourd'hui. Parce que j'en parlerai, je trouve que la comédie adolescente c'est devenu un truc un peu gogol. Et ça manque peut-être de films comme ça qui font voilà un point. Et je pense que c'est une des qualités pour moi de La Boom, c'est de montrer une époque, quoi qu'on en dise. Même si David, voilà. Mais je te laisse poursuivre.
Hein. Et du coup, quand on parle de cool, est-ce qu'on a déjà vu des personnages plus cool que Ferris Bueller ou Marty McFly? Je crois pas, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Et donc, du coup, moi, ce que j'adore dans ces films, c'est que...
C'est ce que disait Mec Pas Cool.
Moi, je dis clairement, j'étais clairement pas un mec cool. Mais je m'identifie au...
Maintenant, t'es dans Parlons Péloche, hein.
C'est vrai que là j'ai atteint, ouais. Voilà. Mais tu vois, moi je m'identifie dans Breakfast Club par exemple, tu vois, je m'identifie clairement au nerd. Ouais. Même si je faisais pas des clubs de maths et mais le mec, tu vois, moi l'histoire de ma vie, c'est tomber amoureux de filles et elles me disent ben non David, on est trop amis. Et ça, c'est l'histoire de ma vie.
Béa l'a dit assez vite dans l'aventure Parlons Péloche quand t'es arrivé.
Ah bah oui.
Tout ça s'est passé devant nos yeux. Hein. J'ai même un enregistrement que j'ai eu la décence de
pas mettre. On entend mon cœur se briser.
Ah oui.
Après, si tu veux choper dans ces années-là, soit t'as un couteau papillon, soit tu fais du sport.
Ouais.
Et clairement,
bah,
très requis, quoi.
Ouais, j'ai essayé de faire du sport avec un couteau papillon.
Ouais.
Bah, je me suis crevé un œil. Donc, du coup,
et terminé, fin de l'histoire, voilà. Game over.
Mais du coup, voilà, moi j'adore ce truc où c'est du cool, du fun à foison, et en même temps ça explose les barrières établies, et puis on peut aussi aller s'encanailler dans les douches de la piscine municipale, et ça je trouve ça super chouette. Donc donne-moi du teen movie des années 80 autant que tu veux, c'est vraiment là je suis chez moi là.
J'allais dire quel est ton premier crush, mais vu ce que tu viens de m'expliquer, je peux transformer un peu la question en disant quel est donc ton premier râteau.
Emeline.
Donc Emeline, si tu nous écoutes, eh ben va brûler en enfer, parce que
salope.
Voilà un type qui a réussi sa vie. C'est David ici même, David qui a un poste très très haut placé dans une grande boîte d'high-tech française. David. c'est quoi cette émission? J'ai dit high-tech. Alors Fouad, vraiment là, je m'engage sur un terrain brûlant, parce que vraiment je donnerais beaucoup d'argent pour aller un petit peu dans ton collège, dans ton lycée, voir quel adolescent tu étais. J'imagine un mec.
Ah non.
J'imagine un petit peu de la malice en même temps du charme qui est aimé par les profs, mais qui est un peu goguenard, non?
Avec une petite moustache. Je pense que t'avais une petite moustache.
Ah non, malheureusement, j'avais pas assez de testostérone à l'époque. Mais j'étais l'intello, en fait. J'étais bon en classe. Du coup, tout le monde était sympa avec moi. Et j'échangeais des réponses contre des bisous.
Oh.
Tu vois.
Donc
je dilais.
Ah putain.
Avec hashtag MeToo.
Mais c'est clair.
Mais ouais. J'imagine pas ce qu'il demandait.
Ça a pillé sa première branlette.
Hein. contre un DS de maths.
Et putain, heureusement que tu travailles pas dans le cinéma, ce serait belle.
Mais non, mais
Valère,
c'est.
Tu vas un rôle coupé.
J'étais l'intello, donc moi j'étais pas le capitaine de l'équipe de basket. Tu vois, j'étais pas le meilleur.
Mais je pendais quand même.
Fallait
bien
mais,
aborder.
Du coup, mais j'étais le mec fort en classe. Donc tout le monde aimait bien, tout le monde était gentil avec moi. Et du coup, les meufs que je trouvais mignonnes et qui voulaient des réponses, ou qui voulaient s'asseoir à côté de moi, je leur disais, bah, tu me fais un bisou après. Tu vois,
j'avais dit que je voulais pas m'aventurer sur ce terrain. J'avais
et du coup, du coup, voilà. Donc,
ça explique quand même beaucoup de choses.
Si elle voulait pas, il est forcé.
Et alors, mon premier crush, elle s'appelait Natacha.
Natacha.
Celle qui m'a un peu appris la vie. Quoi.
Elle venait de.
Celle qui m'a appris la vie.
Madame Natacha,
elle était sympa, moi
j'adore. De physique, chimie.
J'aimerais vraiment la revoir.
Bah, c'est un appel à témoins.
Et
Fouad Bouddha recherche Natacha.
c'était la tu sais, c'est la cheftaine de
la maquerelle.
C'était un peu la cheftaine, ouais. C'était un peu la terreur. Et elle faisait flipper tout le monde. Tu sais, tout le monde la respectait, y compris les mecs et tout.
Bah, déjà, elle faisait 2 mètres et 130 kilos.
Et
forcément, c'est redoublante.
Elle était bûcheronne.
Et du coup,
elle
s'est prise d'affection
pour moi. Fais-moi
un bisou avec ton fouet et tout. Voilà.
Ah, on n'est pas encore allé là, mais elle m'aimait bien.
Il a fallu attendre 2-3 ans.
Et du coup, j'ai pu, voilà, c'est elle qui m'a appris la vie. Ah, Natacha, si tu m'entends, écoute, je te fais un gros bisou. C'est chouille.
C'est génial. C'est que. Donc, Natacha, effectivement, contactez-nous sur @parlonspeloche sur le réseau que vous voulez. J'allais vraiment passer la bâton de parole à Tristan. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas du tout parlé des teen movies.
On n'a pas du tout parlé.
Qu'est-ce que t'attends des teen movies?
Alors, moi, les teen movies des années 80, je les ai pas vus pendant les années 80. Je les ai vus après. Après coup, 20 ans, 10 ans après, en fait. Donc, j'ai un gros décalage avec ce genre-là.
Ton appréhension?
Moi, pendant les années 80, c'était Ferris Bueller. Ferris Bueller et Retour et Futur. Voilà, c'était mes deux films auxquels je m'identifiais à mort. C'était mes teen movies de l'époque. Et tout le reste...
T'es changé des bisous de filles contre des voyages dans le temps.
C'est ça. Mais et d'ailleurs, je le plus possible, je gardais ma blouse blanche de sciences physiques pour ressembler à Doc. Pour
être comme Doc,
tu vois.
Retour vers le futur, tu voulais ressembler à Doc.
Non, mais on avait
ça aurait pu être blanche. Einstein. Hein.
Moi, je m'identifiais à Einstein. Ouais.
Non, mais tu vois, en plus, j'ai encore des lunettes, mais je portais des lunettes à l'époque déjà. Et du coup, on avait une blouse blanche et je la gardais. Pour moi, je disais, ah tiens, c'est comme Doc et tout.
Comme Omer Strat, hein. Ça n'a jamais marché.
Et j'ai
et il a pris la R16 de papa, il a donné un grand coup d'accélérateur et il a foncé dans un mur. Bon.
Après, le reste, ce qu'on appelle le teen movie années 80, c'est, je l'ai découvert après coup, en fait, moi, tout John Hughes. Après, c'est, en fait, j'ai un recul de 20 ans avec ce genre-là. C'est pas un genre qui m'est contemporain, en fait.
Pourtant, t'allais au cinéma dans les années 80?
Oui, mais j'allais pas voir. C'est pas ça que j'allais voir, en fait. Moi, j'allais voir, voilà, les Spielberg, les Disney. En plus, je choisissais pas toujours les films que j'allais voir. Mais pendant les années 80, non, je voyais pas les teen movies, sauf, voilà, les deux qui m'ont marqué, c'est Retour au futur et Ferris Bueller. D'autant plus que Ferris Bueller, le jour où je l'ai vu, j'étais moi-même vraiment malade. Et donc j'ai une identification de ouf avec ce film. C'est que j'étais malade et j'étais Ferris Bueller, c'était moi, quoi.
Je comprends pourquoi tu mets des peignoirs chelous aujourd'hui. On est là-dessus.
Et pourquoi tu parles tout le temps à une caméra alors qu'il n'y en a pas?
Ça, c'est vrai que c'est plus inquiétant. Tristan, et je le répète, hein, comme dans toutes les émissions, Tristan, Antoine et moi, on est des 19ers, on est de 1990, donc nous, clairement, on découvre des choses.
On allait au cinéma dans les années 80.
Dans les 80, on y allait, voilà, on était. Mais du coup, voilà, on a un rapport au truc qui est différent. Ta vision, ton amour pour les années 80, et après on parlera accroche, même si les dossiers, je les connais un peu. Hein. Mais je connais un peu les bails.
Oui, effectivement, on n'a pas connu cette époque-là, mais j'ai vraiment l'impression, en les ayant vus sur le tard, qu'il y a eu, quand même un beau virage en fait entre les années 80 et 90. Parce que...
Et 2000 et 2010, c'est fou, le teen movie évolue en décennies.
Ouais, non, mais ça n'a vraiment plus rien à voir. Ouais, parce que je trouve que c'était un peu plus subtil à l'époque. Il y avait un peu ce côté, la liberté qui prenait, en fait. Ils prenaient la liberté eux-mêmes.
Une révolte.
Voilà, c'était au détriment de beaucoup de gens, enfin, des autorités, en fait. Il y avait des autorités qu'il fallait défier. Et c'était soit l'improviseur, soit les parents. Et il fallait mettre la musique à fond, il fallait danser. En fait, c'est ça, il y a un truc qui a plu aujourd'hui, que tu retrouves vraiment plus forcément dans les teen movies d'aujourd'hui.
Un petit peu, on en parlera un peu dans une des questions que je poserai, mais effectivement, ça sera réfi, quoi.
Et ils avaient, je trouve, surtout chez John Hughes, beaucoup de recul sur leurs conditions d'ado. Et c'est pour ça qu'il y a autant de dialogues très profonds, en fait, sur... voilà, enfin, ils vont parler de plein de trucs un peu chauds, quoi. Enfin, ils vont parler de sexualité, ils vont parler de suicide, ils vont parler de je sais pas, enfin de plein de trucs assez, enfin, que dont tu parles, enfin, logiquement tu n'en parles pas avec tes potes, en fait, à 15 ans.
Et là, il y a une caméra pour montrer,
il y a une caméra pour en parler. Et voilà, après, je veux, il y a beaucoup de sap aussi, hein. Il y a du Teddy, il y a des lunettes de soleil, c'est un peu les codes classiques de l'époque,
des bandanas.
Et voilà, des bandes de potes clichés, mais ça, on en avait déjà parlé. Pour le coup, ça a été repris. Les bandes de potes clichés, t'as toujours le bad boy, t'as toujours le nerd, t'as toujours le gros, la belle gosse, qui est une peste.
Et très très la société américaine. Tu parlais d'un truc, c'est le rapport à la vie sexuelle, et justement la façon dont la sexualité est abordée dans les teen movies, c'est ce qui distingue pas mal le teen movie américain du teen movie français, parce que c'est pas du tout la même approche. Et tu parlais effectivement de l'appréhension du monde, et on voit dans les teen movies, mais ça on en a parlé dans notre numéro classique, c'est effectivement les rites de passage de l'âge de l'enfance à l'adulte, et c'est toute cette période qui est pour ça que c'est intéressant pour l'adolescence. Et on parlera des périodes, hein, on le disait avec Béa juste avant, de décennie en décennie ça a évolué, et ce qu'on a constaté dans un Parlons Péloche format classique, c'est qu'aujourd'hui le teen movie c'est un film de science-fiction. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on s'intéresse plus vraiment à l'adolescence. Alors il y a des contre-exemples, on en parlera aujourd'hui, Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, le nouveau dont on a parlé dans Parlons Péloche, il y a des contre-exemples, mais on se rend compte que dans les années 80 on s'intéresse plus à l'adolescent pour ce qu'il est, mais aussi pourquoi, je l'ai dit, hein, c'est parce qu'il y a une explosion du genre et que là il y en a énormément. Donc on verra dans la sélection qu'il y a des films adolescents gogol, mais il y a des films qui s'intéressent au truc.
Mais on sait qu'il a des problèmes en fait. On pointe les problèmes de l'adolescent. Ouais. Dans les années 80, les American Pie, on pointe pas les problèmes en fait.
Ah, quand même, moi je trouve
non, mais c'est juste en fait, leur seul problème c'est qu'il faut baiser.
C'est qu'il faut baiser.
Mais
c'est
il faut perdre
sa virginité. Et du coup, c'est juste une histoire de camaraderie et de sexualité.
Alors que dans la suite tardive, là, le 4. Là, clairement, t'as les problèmes des 49.
Ouais, le kilomètre à poil, là, celui-là.
Non, non, American Reunion.
Ah,
le 4,
oui,
le
de vrai la série 4. Régulière.
Oui, le vrai 4, ouais. Qui est bof, bof. Hein.
Ah, moi, j'aime beaucoup le 4.
C'est plus un teen movie.
Mais non, c'est un quarantenaire movie, tu vois.
Mais du coup, c'est ça. Et d'ailleurs, faudrait qu'on en parle en parlant péloche. Tristan, on n'a pas parlé du plus important, le premier crush.
Du coup, tu connais pas, mais c'était Olivia. Ça devait être en.
En primaire, alors.
Ouais, même grande section de maternelle.
T'as été un ado très vite, toi.
Dans la cour.
Ton crush ado. Bon,
enfin, j'étais pas ado.
Potentiellement, il y avait.
J'avais que 12 ans.
Il y avait du toucher un peu du.
Du toucher, ça devait être Gwendoline au collège.
On la connaît tous, Gwendo. On la connaît tous. Alors, je vais voir.
Il ressemble en plus que t'en avais parlé déjà dans le teen movie.
Si,
je la connais vraiment.
Bah oui, mais il me semble que.
Mais c'est ta sœur quand même.
C'est celle-là que vous aviez partagée, non?
Non.
Oula!
Marion, son abonnement. Mais
bah oui,
on n'est pas les
on
seuls.
On pense à toi.
Globalement, il y avait un bail sur elle.
Et toi, Toto, ton
lycée tout entier.
Mon premier crush, merci Antoine. Mon premier crush, Caroline Beau. Mais, Caroline. Donc, Caroline, voilà. Mon premier, voilà. Caroline, si tu nous écoutes. Bon, je suis en couple, donc laisse tomber. trop tard. Le teen movie, donc on a dit pas mal de choses, et effectivement, il faut distinguer, surtout en France, et on le verra dans notre sélection, le teen movie américain du teen movie français. Et comme je l'ai dit, on va perdre au fur et à mesure des décennies la notion de on veut montrer ce qu'est l'adolescence, tous les questionnements liés au contexte extérieur. Mais on en a largement parlé. Je pense qu'on peut passer tranquillement à notre sélection du jour. Vous allez voir. Qu'elle a divisé. Hein? Et ça, c'est un petit
cabage.
C'est un petit teasing. Ouais, si vous aimez les teasings, alors vous n'avez qu'une chose à faire, écoutez le nom de Zeus. Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission. On fait le tour d'horizon de trois teen movies sortis dans les années 80 pour voir ce qu'était ce genre à l'époque. On écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser. Quand ça, Béa, tiens?
Ce soir.
Bien, Béa.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions?
Si. Je fais une boum. Vous pouvez venir?
Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée.
J'ai rien à me mettre.
Avant la tombée de la nuit, ils feront tout ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs.
Ils livreront tous leurs secrets.
Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche.
Ils prendront tous les risques.
Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Et sans casque en plus.
Et ils seront plus proches les uns des autres qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.
Je trouve qu'il ne faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses?
Breakfast Club. Un club qui n'exista qu'un jour, mais qui devait changer toute leur vie.
Et vous l'avez entendu, aujourd'hui il sera question de Breakfast Club, de La Boom et de Bill and Ted. Alors Bill and Ted, c'est pas évident qu'on en parle ce soir parce que c'est vraiment au bout de la bande-annonce, j'ai pas trouvé de bande-annonce en VF. Et du coup j'ai fait ce que j'ai pu, mais on s'est marré et c'est bien là l'essentiel. Alors pourquoi Là, on va sortir les gros dossiers, parlons péloche. On a galéré sur cette sélection. Au début, Béa avait proposé une sélection en bonnet du forme qui était très qualitative. Et il y a David. David Marmignon. David Marmignon qui est
bonsoir.
Là. Non, parlons péloche, j'ai vu quoi? 10, 12 émissions. Et qui, ça y est, ça prend le lead, ça démarre. Et qui arrive, qui dit, tiens, je vous propose Bill and Ted. Pourquoi pas Kenny Reeves? C'est complètement bah, dans la ligne édito.
Écoute, parlons péloche, Kenny Reeves.
Kenny Reeves. Donc, il a mis ça. Appuyé par Tristan.
Tristan.
J'ai appris un peu appuyé, là.
Tristan. Donc, aujourd'hui, on. Parce que je les entends, les mecs de Twitter. Moi, je connais les gars. Je connais les réseaux sociaux.
On les connaît tous. Hein.
Ils vont dire Outsiders, ça y est pas. Voilà, tous ces gens-là. Victor, si tu nous écoutes. Mais justement, les deux-là, Tristan, David, je vous le dis sans coup fait rire. Vous êtes des poisons de l'esprit. Voilà. On commence par Breakfast Club de John Hughes. 5 lycéens au caractère totalement opposé se retrouvent en col un samedi après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. C'est ça, Breakfast Club, film marquant.
Je devais pas plus m'encenser.
Ouais, je le ferai au fur et à mesure. T'inquiète pas, Béa, je le ferai. J'ai trop envie de garder cette séquence. Si, t'inquiète pas, on va d'abord passer à la question anecdote.
Tu ne vais pas me virer.
Ça ne saurait tarder. Non, mais je ferai un sondage Twitter, un truc humiliant, pour savoir si tu restes dans l'émission ou pas.
Ouais.
Anecdote, mais en vrai, Antoine, tu sais que tu as un golden ticket ici, tu resteras jusqu'au bout. Même si l'émission n'existe plus, tu resteras sur ce siège, Antoine. C'est l'avenir que je t'offre. Anecdote, dans quelle sélection prestigieuse figure Breakfast Club ou The Breakfast Club de John Hughes?
La liste des 100 meilleurs films américains.
On n'est pas loin de ça, on n'est pas loin de ça. J'amène un concept de ce type-là que j'aime bien.
La liste des meilleurs films de John Hughes.
Ça, oui, hein, oui, évidemment.
La bibliothèque du Congrès.
Les 500 meilleurs films de Scorsese ou Edgar Wright ou Tarantino.
Je vais vous donner la réponse parce que c'est pas évident, mais ça appartient à quelque chose que vous devez probablement connaître, sinon je vais vous l'expliquer. Ça appartient au National Film Registry. Toujours pas l'accent, hein, toujours pas venu pendant le confinement. C'est un ensemble de films américains sélectionnés depuis 1989 par le National Film Preservation Board. Tous les ans, on prend 25 titres, on les met, et c'est des titres qui ont au moins 10 ans au moment de leur inscription et qui ont une importance culturelle, historique ou esthétique par rapport à la période.
Genre la cinémathèque, quoi.
Voilà. Et je me dis qu'on pourrait faire un podcast là-dessus.
C'est intéressant de savoir si Dylan t'aide dedans.
Ben ouais, je vérifie, Béa.
Ouais,
Il est dans la National Film Poop Registry.
Le placard, t'as regardé?
Le placard, il est
The placard, ouais.
Top 1 à rajouter, voilà, notamment pour cette fameuse réplique, Tristan, dans le placard.
Ouais, mais je n'ai pas de chat, moi.
Voilà. Et c'est un vrai magnétophone, hein. Tristan, il en connaît beaucoup. Ma question, je l'adore. Je l'ai déjà posé, mais la question box-office. Box-office France. De ce film, Béa.
Moi, je pense que ça n'a pas cartonné forcément en France. Je dirais 1,5 million.
1,5 million. David.
600 000 entrées.
600 000. Antoine.
Allez, 1 800 000.
Ouais. Fouad.
520 000.
200 000.
200 000. En règle du juste prix, vous perdez tous. Donc vous imaginez, on en est en termes de catastrophique. 52 280 entrées en France.
Non.
Seulement 2 semaines au box-office. Effectivement, c'est un film qui...
C'est sûr.
Ouais, j'étais pas né, je pouvais pas...
Que personne n'a vu en
cinéma
France.
D'affilée, c'est sûr.
Bah oui, mais c'est clair qu'Antoine aurait pu fausser les stats, parce que quand t'as dit 1 800 000, Antoine, j'ai senti une envie que ça fasse 1 800 000, mais non, c'est 52 280.
Bon, non, mais on les connaît, ces gens, dans les années 80.
Ouais,
les parents, c'est des gros cons.
C'est pas les bons cons. Je suis bien d'accord.
Les parents, ils sont trop nuls. Je déteste.
Non, mais c'est clairement un film qui appartient, qui à l'époque de la sortie appartenait aux États-Unis et pas au vieux continent.
Un peu comme Bill et Ted, quoi.
Un peu comme Bill et Ted.
Le teen movie est né là-bas, hein, d'ailleurs. Il est né aux États-Unis.
Ouais, dans les années 60.
Ouais.
Je crois.
Avec James Dean.
Voilà, allez vérifier, c'est pas notre rôle de vous expliquer tout ça. on est dans les années 80.
Hein,
on est dans les 80. Ouais, puis on
commence à prendre des trucs après.
Ouais, pour prendre des bières. David, voilà, ma question c'est de savoir, effectivement, je sais que tu aimes ce film, mais quelle place il a dans ta cinématographie, Breakfast Club?
C'est une place ultra importante. Je pense qu'il doit faire partie de mes 30 meilleurs films de tous les temps. J'aime vraiment ce film d'amour, mais genre... Et là, je me suis fait un plaisir de le revoir. Ça devait faire 2-3 ans que je ne l'avais pas vu. Et oh là là, quel claque à chaque fois. Enfin, tout.
la BO, les personnages, leur drama, le proviseur. Je crois que de plus en plus, je commence à m'attacher au proviseur et à devenir comme lui. Ça m'arrive des fois de voir les jeunes dans la rue et de me dire, qu'est-ce que c'est que cette génération? C'est eux qui vont nous gouverner après, bah merci bien. Mais voilà, franchement, c'est dans ma cinéphilie et dans ma pop culture, c'est un point ultra culminant. Vraiment.
Tu l'as découvert à quel âge, toi?
Je l'ai découvert genre à 15-16 ans. Donc j'étais vraiment en plein dedans. Donc il y a deux films. C'est dommage qu'on fasse pas encore. C'est dommage que ce soit les années 80 parce que l'autre film que je mettrai au même niveau, c'est Pump Up the Volume avec Christian Slater. Mais là, on est dans les années 90 et c'est encore un niveau au-dessus. Beaucoup plus noir et encore plus sombre, quoi.
Mais vous le savez, hein, auditeur fidèle de Parlons Peloche, les années 90, ça arrive bientôt dans notre ligne édito. Restez à l'écoute. Je suis un ringard. David.
Et donc, moi, ce que j'adore, c'est que ça part comme un film extrêmement caricatural, mais en fait, c'est ça qu'on aime, parce que du coup, tu t'identifies à un personnage tout de suite. Et puis, ça parle de tout, tu vois, la relation avec les parents. Moi, c'est pareil, enfin, tu vois, tout de suite, je pense à ma propre relation avec mes parents. Puis, c'est vraiment le meilleur moyen de sonder la psyché des personnages, parce qu'ils font une espèce de huis clos, façon, on dirait un bottle épisode. D'ailleurs, il y a pas mal d'épisodes de séries qui reprendront la structure narrative.
Dawson l'a fait.
Et Community, dès le premier épisode, c'est une grosse référence à Breakfast Club. Mais voilà, ils reprendront la structure narrative de Breakfast Club pour faire un hommage et en même temps développer les personnages. Donc ça, j'adore. Enfin, toi, tu veux me flatter, tu veux me faire plaisir, fais une petite référence à Breakfast Club et je vais adorer. Mais c'est une autopsie de la société.
Écoute ça, Spielberg.
C'est vrai que
Je suis pas sûr qu'il écoute.
Et donc c'est une autopsie de la société américaine par le prisme du mal-être adolescent et en même temps c'est une critique de la middle class comme seule aspiration de la jeunesse américaine et en fait c'est quoi être adolescent quand t'es américain et que t'es adolescent, c'est essayer de pas devenir comme tes parents et je pense que ça c'est universel. Et moi, depuis que justement je suis devenu parent, ma philosophie de vie c'est essayer de pas trop le traumatiser pour même si c'est compliqué.
J'ai pris un barbecue chez toi, c'est trop tard. Raconte-nous quand tes portes à fouette, c'était mort.
Maintenant il répète ce qu'on dit, donc c'est une galère. Mais quand est-ce que tu deviens adulte? Bah quand tu te rends compte que tes parents ils sont pas parfaits. Quand tu te rends compte que tes parents, en fait, ils ont galéré autant que tu galères. Et en fait, tout ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de pas trop donner à ton enfance tes névroses et tes galères. Et donc, du coup, enfin, je trouve que c'est un film qui raconte vraiment tout ça. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est pendant tout le film, en plus de cette analyse ultra profonde, t'as tout ce mystère de savoir pourquoi ils ont été collés. Donc, du coup, ça t'intéresse pendant tout le film. Puis, en le redécouvrant, il y a une vraie noirceur dans certaines scènes. Le personnage du proviseur, il passe en 5 secondes de bouffon à être le plus dégueulasse du monde. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Il devient terrifiant. Et notamment dans la scène du placard à balai avec un ado, tu vois, sorti de son contexte, ça peut faire encore plus peur. Mais enfin, cette scène-là, vraiment, elle m'a scotché en la revoyant. Et je trouve que d'ailleurs, tout le film, c'est des interprétations de dingue. Tout le cast, il est hallucinant. Moi, le monologue d'Emilio Estevez sur les remords d'un bully. Enfin, moi, ça
c'est un des moments charnières du film.
C'est ça. Et puis après, tout le monde enchaîne sur son monologue. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Et moi, j'adore au fur et à mesure du film. Au début, ils sont tous trop différents. Ils peuvent pas se blairer. Puis au fur et à mesure du film, ils commencent à se défendre les uns les autres. Et vraiment, c'est ce qui me touche en plus. Et en même temps, ils commencent à s'apprécier pendant que toi, spectateur, tu commences à les apprécier. Et je trouve que vraiment, Breakfast Club, c'est un modèle d'écriture, de structure. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un film parfait de bout en bout. Et puis, moi, j'adore aussi, et c'est ce qu'il nous faut dans les teen movies, c'est l'aspect cathartique. Vraiment l'aspect cathartique de danser, de gueuler, d'hurler, d'envoyer chier tout le monde, de se rebeller, de péter des trucs.
De jeter du jambon.
Ouais, voilà. Mais se jeter du jambon, c'est très important pour ton développement personnel.
Le coller sur la tête d'une statue.
Voilà.
Ouais. Mais c'est pas du jambon, c'est du pastrami. Non, c'est
ça. Pastrami, en plus, il y a des épices de sang parce qu'il y a des petites olives, je pense.
Ouais, vous retrouvez ça chez Henri Boucher, par exemple.
Oui, c'est parce que
sponsor Lidl.
Je suis très cynique.
il sponsorise l'épisode d'Henri Boucher.
Henri Boucher, ouais. Ils nous ont fait 20 000 balles. Là, on est content. On va pouvoir renouveler un peu le parc, parc automobile.
et moi, je trouve que ce qui serait génial, c'est qu'en fait, on pourrait faire un remake tous les 10 ans de Breakfast Club.
Ouais, complètement.
Parce que tu vois, tu pourrais reprendre, tu pourrais faire un Breakfast Club 90, 2000, 2020, et tu l'adaptes aux préoccupations, aux interrogations, aux actus de la jeunesse d'aujourd'hui. Et tu vois, le Breakfast Club 2020, il irait beaucoup plus loin dans toutes les questions sexuelles et raciales, par exemple.
Ouais.
Et ça pourrait être super intéressant. Enfin, et au final, je pense qu'on pourra jamais faire une fin aussi parfaite que Breakfast Club. Tout est là, la musique, le point levé. Enfin, rien que d'y repenser, j'ai des frissons. C'est vraiment un film parfait, quoi.
Voilà, que dire à part découvrir ce film si vous l'avez pas dans votre filmo. Moi, je l'ai découvert sur le tard et le voyage n'en a été que plus beau. Béa, quelle place il a dans ta filmo?
Bah écoute, moi, alors c'est pas une de mes références, même si je l'aime beaucoup, mais tout simplement parce que je l'ai pas vu adolescente, moi. Et je pense que ça aurait été différent si je l'avais vu à 15-16 ans, mais je l'ai découvert, ouais, assez tardivement, j'étais bien adulte. Donc, alors, je suis pas totalement d'accord avec toi sur le côté, faudrait faire un remake tous les 10 ans, parce que, oui, on pourrait aller peut-être plus loin, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses dedans.
Carrément.
Et je trouve que ça se voit que c'est un film qui a été écrit pour des ados. Et je trouve qu'on retrouve, on s'identifie forcément. Et alors forcément, moi, je pensais aussi à la nana, justement sur la sexualité, qui dit, bah, en gros, tu couches pas, enfin, tu couches, t'es une salope, tu couches pas, t'es une coincée.
Il n'y a pas de juste milieu.
Du coup, tu fais quoi? Enfin, et donc, je trouve quand même qu'il y a des préoccupations qui, à mon avis, sont les mêmes aujourd'hui, tu vois. Effectivement, il y a peut-être plus, il y aurait d'autres choses sur le racisme, sur le consentement.
L'identité numérique.
Veux, mais aussi.
C'est vrai, en plus.
Mais oui. Oui, non, mais oui, non, mais complètement. Sur la réputation que tu peux avoir, mais sur les réseaux. Et
tu vois,
mais
on prendrait un Richard Linklater qui fait tous les 10 ans le même film avec des autres acteurs, mais tu vois, ça serait génial. Tu prends Richard Linklater qui fait une histoire de jeune collé tous les 10 ans. Et à chaque fois, il ferait un film ultra différent, ça serait génial.
Et lui, il ferait une colle de 10 ans et il filmerait vraiment sur le temps les mêmes acteurs.
En time-lapse. Voilà. Mais on en parlera après. Mais au final, par exemple, ce truc-là que tu proposes, on l'a eu avec La Boum et avec LOL un petit peu. Enfin, quelque part, c'était un peu ça, là, le projet.
Alors, c'est quand même très américain. On sent que c'est une critique de la société américaine,
ouais,
aussi, avec vraiment le mal de vivre de l'Amérique. Mais je trouve que ça marche quand même, ça reste, je trouve, assez universel. Et puis, oui, il y a ce côté qui est à la fois comédie et sombre, mais ça, c'est John, enfin, ouais, c'est John Hughes, là, pour le coup, il sait vraiment bien faire ça. En plus, c'est une comédie qui est originale dans la façon de filmer, parce que c'est un quasi huis clos. Donc ça aussi, dans les comédies adolescentes, c'est pas courant. Donc c'est intéressant pour ça. Et puis, y a aussi, ça reprend tous les codes des films de prison aussi. Justement, avec ce huis clos, et puis, bah, t'as le proviseur qui peut être le maton. Mmh. Ils ont des moments
de
où ils veulent s'éloigner. Bah, même la scène dans le placard à balai, enfin, ouais, elle est flippante. Enfin, et il y a ce côté,
placard à balai.
Et juste pour la petite anecdote, parce que je sais que Thomas, tu
prison
aimes bien
Breakfast Club.
Les petites. Ah, oh, trop bien.
J'espère qu'elle n'était pas dans
Jeu-François.
Non, je vous rassure, j'ai pas mis. Je ne mets jamais les.
Non, il a mis deux films qui sont totalement pas du tout genre.
Et juste pour la petite anecdote, en fait, mais il l'a tourné dans l'ordre chronologique.
Oui.
Et il a tourné plusieurs fois comme une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, ça a été transformé en pièce ouais, de théâtre par la suite. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, et je trouve qu'on retrouve vraiment dans le film, et je pense que c'est aussi pour ça que ça nous, que ce qu'on marche, c'est que les personnages, du coup, comme dans une pièce de théâtre, et ils l'ont vraiment fait, encore une fois, de façon chronologique, bah, ils évoluent, et on les voit, on voit vraiment l'évolution des persos. Donc, non, c'est vraiment très juste, en fait, comme film.
Antoine, voilà, je pense que c'est toi le plus fan de ce film autour de la table. Si je ne m'aime
pas. Non,
t'es plus Ferris Bueller, toi, en fait.
Ouais, je suis énorme Ferris Bueller, mais après David, je pense que je suis deuxième fan de ce film.
Ouais, parce que David en a très bien parlé.
Mais
aussi, on a du talent autour de la table, c'est incroyable. On dirait l'équipe d'Aimé Jacquet.
On a du talent, mais on aime juste un film qui est fabuleux, c'est tout.
C'est vrai que le vrai talent, c'est John.
Et alors, pour l'avoir revu, du coup, bon, pour la sélection, je trouve quand même que ses messages ont peut-être un peu vieilli sur certaines questions, et je pense que David a raison. Disons qu'on devrait peut-être le refaire tous les 10 ans parce qu'il y a une évolution aussi des mœurs et des questions sociales. Voilà. Mais moi, ce que je pense de ce film et ce que j'aime, c'est effectivement ce rapport en fait à l'adolescence et au fait que ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés tout le temps entre, pour moi, trois choses. C'est-à-dire, ils ont ce désir de réussite des parents, ces parents qui se projettent sur eux, cette constante sociale dans laquelle ils évoluent. Alors, t'as ceux qui sont effectivement... T'as effectivement la fille à papa qui a un peu tout ce qu'elle veut. T'as l'autre qui doit se casser le cul. T'as les parents alcooliques. T'as les enfants délaissés. T'as tout. Et t'as ceux qui portent les espoirs de tout ce que leurs parents n'ont pas pu faire. Et à côté de ça, ils ont aussi le lycée. Le lycée, en fait, qui les conditionne, qui disent « Bah non, en fait, tu peux pas être toi-même non plus ici. Tu dois répondre à un code social. »
Mais tu dois réussir, en fait.
C'est ça.
C'est la glorification de la réussite.
Mais tu dois réussir comment ? Tu dois réussir en étant populaire. Tu dois réussir en faisant que les gens s'intéressent à toi. Parce que sinon, le lundi matin, même si t'es pote avec des gens, ils te diront pas bonjour. Tu vois ? Et il y a toutes ces questions-là qui reviennent et qui cuisent un peu
à la
comme
fin. Ouais, voilà. On est potes, mais demain, par contre, je vais pas te
faire bonjour. C'est ça. Et je trouve ça génial dans ce film, c'est que c'est vraiment ça. C'est un peu une cocotte minute de dire, bah voilà, on vient tous de milieux différents, que ce soit social, éducatif. On évolue tous dans cet endroit qui veut tous nous instruire et faire de nous, nous apprendre les mêmes choses pour qu'on soit tous les mêmes citoyens, mais on peut pas l'être. Parce qu'on est tous différents, on évolue tous différents, on devient tous des adultes différents. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous pressent et qui nous oppressent que bah, qu'est-ce qu'on fait pour être adolescent ? C'est quoi être nous-mêmes, quoi ? Et je trouve que ce film-là, c'est ça, c'est des jeunes qui, au départ, se connaissent pas, se regardent, se jugent, sont dans ces conventions sociales, puis apprennent à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier, et ils grandissent ensemble. Et en fait, ça, pour moi, c'est le moment, à la fin, où ils ont tous compris que ce qui importe, c'est pas ce qu'on leur dit à côté, c'est pas ce que leurs parents veulent, c'est pas ce que l'école veut, c'est qu'on les fasse pas chier pour qu'ils soient eux-mêmes, quoi.
Et c'est ça que j'adore aussi.
Tu me fais tellement vibrer, Antoine.
Mais c'est
beau.
David Bond.
C'est rigolo parce que
depuis
toi,
là... 45 minutes. Hein.
Et dire que je pensais que c'était pour moi.
Et moi j'ai vérifié.
Mais du coup. Ouais, là j'ai vécu des angoisses en préparant l'émission parce que je me suis remis dans mes histoires d'adolescence où quand tes parents ils disent t'inquiète pas ça ira mieux après. Tu sais parce qu'en fait le collège c'est 4 ans pourri quoi. Ouais non mais c'est vrai. Mais en même temps tu vois c'est des et je me pose la question par rapport à l'avenir de mon gamin dans 10 ans ça sera son tour et je me dis merde qu'est-ce que je fais? Comment tu peux protéger un enfant de toute cette partie d'adolescence alors qu'en même temps, il faut pas le protéger? Parce que moi, si tu me demanderais de choisir entre David, est-ce que tu veux revivre les 4 ans pourris ou est-ce que là, je te propose 4 ans de collège où t'es le roi du monde? Bah, ça se trouve.
Toi, t'as loupé des cours de français apparemment parce que si tu me demanderais. Donc, non seulement.
Il va falloir 4 ans de collège de France.
Alors que selon toi, t'as juste à être bon en maths pour te faire sucer.
C'est la grande leçon hein, de cet épisode.
Putain, je suis en train d'ouvrir mon cœur, tu me fais chier.
Ne fais jamais gratuitement, c'est pourquoi t'es bon.
Eh, ça va, eh, frère, je suis pas psy, quoi. C'est bon, on est là pour divertir les gens.
Mais tu vois, et en fait, c'est ce qui te permet de te construire en tant qu'adulte, de vivre des années d'adolescence pourries. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois? Et vraiment, ça m'a foutu des angoisses de revivre ces moments-là avec les 3 films que t'as choisis. Ouais.
Non bah je suis désolé, tu peux vivre la même angoisse si t'écoutes le dernier album d'Emma Domas aussi. Elle se pose ce même genre de questions. J'ai une question pour Fouad avant de demander ce qu'il en pense. Est-ce que Fouad, tu souhaites une pizza pour après ou est-ce que tu as déjà mangé?
J'ai déjà mangé.
Déjà mangé, donc pas de pizza pour Fouad. Fouad, merci. Le Teen Movie Breakfast Club, ouais. Quelle est sa place dans ta cinématographie?
Bah, comme Béa, je l'ai vu très tard. Hein. Moi, je l'ai vu il y a 10 ans. Hein. Je l'ai vu sur le tard. Effectivement, c'est un film qui était totalement invisible en France, que j'ai découvert tardivement. Je crois que c'est l'un des derniers John Hughes que j'ai regardé. J'en ai beaucoup entendu parler auparavant, comme une référence, etc. Et alors, c'est un film qui a beaucoup de qualités à mes yeux, parce qu'effectivement, l'écriture, les personnages, l'aspect pièce de théâtre, huis clos, qui est très intéressant, ça c'est plutôt sympa, et puis les acteurs sont très agréables à voir. Après, moi, c'est un film que je trouve assez naïf dans ce qu'il propose, hein, dans son discours.
Pour toi, ça n'existe pas.
Hein ?
Pour toi, ça n'existe pas. C'est trop.
Ouais, je trouve que c'est trop idyllique en fait. Alors,
ouais, que l'évolution, tu la trouves un peu comme un claquement de doigts. D'un coup, ça y est, on s'ouvre et on se.
C'est ça, ah, ouais. Okay. Alors, okay. C'est intéressant.
Première fois que j'en. Mais ok, ok.
C'est intéressant, mais si tu veux, en plus, on a vraiment les clichés. C'est-à-dire, voilà, il y a le voyou, la bourgeoise, l'intello.
Le loubar.
Le loubar, voilà, le capitaine de l'équipe de foot. la droguée, là. Enfin, je veux dire, voilà. On a un échantillon dans un bocal. Ça, c'est intéressant. À un moment donné, de se dire, bah, si on réunit ces gens-là dans la même pièce, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Et, mais, dans la vraie vie, ce ne sont pas des personnages qui sont amenés à se côtoyer, en vérité. Je veux dire, et c'est ce qui rend le film intéressant, c'est qu'il va
te... Mais en même temps, justement, c'est le propos du film, en fait.
Oui, mais c'est justement, voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le film a une... c'est presque de la science-fiction, ce qu'il propose. C'est-à-dire que, voilà, il va créer des liens entre des personnages qui, habituellement, ne sont pas amenés à se côtoyer, quoi,
bah,
dans la vraie vie.
Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce qu'ils font tous partie du même établissement scolaire, tu vois. Donc, en fait, ils se côtoient déjà tous les jours. Mais
oui,
pas, mais justement, ils se parlent pas parce qu'ils sont chacun dans des cases.
Ils connaissent même pas.
Oui,
non, mais
ils sont chacun dans des cases. Mais moi, est-ce que en tant qu'adulte, c'est des gens qui vont continuer à se fréquenter? Ça, c'est pas sûr. C'est pas... donc c'est cette naïveté là que je reproche.
Moi je le prends presque comme un rêve. Hein. Enfin,
On peut le prendre comme ça, c'est pas crédible,
mais c'est ça résume plein de trucs et du coup ça résout plein de trucs qui se seraient pas résolus aussi vite, tu vois.
Oui, probablement.
Voilà,
ouais, le film
mais je comprends
accélère.
Pourquoi tu dis ça. Ouais, voilà. Du coup ça.
Après, d'une manière générale, je trouve que l'adolescent c'est pas un personnage que je trouve très intéressant d'une manière générale de toute façon, parce que. Parce que effectivement, je trouve que c'est pas un personnage. Voilà, c'est un personnage qui est dans des névroses, qui pense qu'à baiser ou à mourir. En gros, c'est ça. Hein, soit tu veux mourir, soit tu veux baiser.
C'est globalement ce qu'on veut.
Et
soigner sa vilaine peau.
Hein, voilà. Je trouve que c'est pas un personnage très intéressant en soi. C'est l'âge bête, hein, comme on dit. Hein, t'es con, tu connais rien à la vie.
T'as des avis sur tout,
t'es un petit merdeux, quoi.
Mais c'est intéressant de le retranscrire au cinéma.
Oui, c'est intéressant.
Mais
je suis d'accord, pas sous cet angle-là. Alors j'ai des références en teen movie. Moi, Ferris Bueller, pour moi, c'est, tu vois, moi comme Antoine, je suis plus Ferris Bueller. Là, on est trop dans thérapie de groupe. C'est l'aspect thérapie de groupe qui m'a un peu gonflé, et je trouve qu'il y a des manières plus sympas, plus intéressantes de parler de l'adolescence. Après, c'est un film. Moi, j'applaudis le comment dire, la facture du film, l'écriture, quoi. Hein, c'est pas faire exister autant de personnages sur la durée. Tu vois, je trouve que c'est une gageure en termes cinématographiques. Mais pour moi, c'est pas l'angle le plus intéressant du teen movie, en fait.
Et il y a quelque chose, une dimension qu'on n'a pas relevée, qui est, bon, du coup là on a eu quelque chose qui est un petit peu pondéré avec La Vie de Fouane, mais pour tout, nous on a quand même globalement tous aimé, et on aime tous, je veux dire, globalement ce film, et c'est un peu, pour moi, une douleur de voir que personne là-dedans n'a fait grand-chose derrière, quoi, dans tous ces acteurs, c'est très frustrant, notamment le héros, celui que j'ai terminé comme le héros, on s'attache tellement à lui, on lui trouve tellement une force, une puissance, qu'on se dit, mais moi quand j'ai découvert le film, je me dis, alors ce gars a fait une carrière de malade, mais pourquoi sa tête me dit plus rien? Bah parce que, frère, bah voilà, c'est
il
pas
a
toujours...
Il a fait de la figure dans Navarro, je crois.
Mais après, voilà. Ils ont tous joué dans les autres films de John Hughes.
Il y a eu au moins ça.
Ouais, Molly Ringwald. Ouais, après, il y a le blond, là, comment il s'appelle. Il a joué dans Dead Zone, la série.
Oui,
ouais.
Emilio Estevez.
Mais bon,
Anthony Michael Hall, c'est ça.
Mais
enfin, ah oui, c'est
mais globalement, c'est pas. Voilà.
Oui, non, mais c'est pas Tom Cruise.
C'est pas Tom Cruise.
C'est pas Outsider.
Bien dit ça.
Ouais.
Ah, bien.
Tristan qui va. Mais c'est intéressant, c'est vrai, parce que là, on est tous en train de dire eh là, c'est le film de l'année, de la vie, regardez-le. Et c'est intéressant aussi d'avoir la vie de Fouette qui relève des choses, ma foi.
Ouais, c'est vrai, c'est mon avis. Hein,
on ne peut pas.
Que moi, hein.
Mais je comprends l'idée. Tristan.
Moi, je suis pas trop dans la cible parce que il faut savoir que j'ai jamais été collé. J'ai jamais fait une seule heure de colle.
J'ai juste une anecdote là-dessus. Ouais. Bah, elle est vraiment... Je la sors en punchline dans mon spectacle. Moi, j'étais collé une fois parce que j'ai séché un cours de latin.
Ouais.
Donc, c'est le rebelle de merde, quoi. C'était déjà en latin, mais t'as séché le latin.
Et t'étais en classe euro, quoi.
Enfin, voilà. Donc, pas ouf, quoi. Tristan. Bon.
Ouais, j'ai jamais été collé. Ouais. Donc, je sais pas ce que c'est.
Mais c'est ça.
Je pense que j'étais trop malin.
On mise en
pour me faire coller.
C'est comme une heure de perme.
Les gens se faisaient coller à ma place.
C'est comme une heure de perme, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Un samedi matin.
Mais... Les heures de perme. Quelle angoisse.
Ah. C'est pas le débat.
Là, il y a tout le collège de David qui remonte, j'ai l'impression.
Au cours, pas dans les couloirs, David. Putain.
David.
J'adore ce film. Laissez-moi parler. J'adore ce film. C'est en fait un film qui commence par une citation de David Bowie et du Simple Minds.
Bah ouais, entièrement d'accord avec toi.
Et, rien que le début, je trouve que ça te fout dans l'ambiance et il y a un truc, il y a vraiment un truc de liberté quoi. Liberté alors que tu vois cinq jeunes qui se font emprisonner dans un lycée. Enfin, ouais, c'est un peu. Et en fait, je trouve que tu t'attends pas à ça, tu t'attends pas à ce que ce soit si profond dans les conversations. Tu t'attends à un truc léger. Comme on en a vu plein, et je trouve que ça fait, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais oui, ça fait un peu partie des films nécessaires, je trouve, quand t'es un peu adolescent. Enfin, en tout cas, je serais ravi de le montrer à ma petite sœur de 15 ans, tu vois.
C'est, ouais.
Parce que moi, je l'ai pas eu, on me l'a pas montré à 15 ans, je l'ai vu, oui, j'avais plus de 20 ans, enfin, j'avais pas du tout le même regard sur cette partie de là de ma vie, mais je pense que ça peut te faire évoluer, ouais, ça peut peut-être t'ouvrir à autre chose, tu vois.
Je partage et je partage pas, parce que bah, on verra qu'il y a des films pour adolescents qui s'adressent aux adolescents, et il y en a qui s'adressent aux adultes. Moi, celui-là, je le mets plus dans la team, ça s'adresse aux adultes. Mais,
ah non, il s'adresse aux ados.
Bah, pour moi...
Enfin, en tout cas, il a été écrit pour les ados, ça,
ouais,
c'est sûr.
Mais parce que c'était dans les années 80, tout ça aussi, mais un ado aujourd'hui, Breakfast Club, a aujourd'hui déjà montré enfin, je suis peut-être vieux con en disant ça,
mais
montrer un ado
dans les
années 80.
Oui.
C'est quoi ? Parce qu'à part MSN Messenger, les ados, ils n'aiment plus rien. gros ringard.
Mais non, mais quand t'as pas... Quand t'as pas de parents qui vont te parler de suicide, de drogue, de... Enfin, tu vois, il ouais. y a un peu un rôle ouais. à jouer.
Ah, ou même quand tu vas bien. Enfin, là, vous parlez ouais. de votre adolescence difficile, mais moi, j'ai bien aimé mes années de collège. Franchement,
moi
je
aussi,
me suis éclatée. Je
vais te la péter, Béa.
Mais non, mais c'est vrai.
Mais on humiliait des gens comme vous, nous, au collège.
Et c'est un phénomène récent, l'adolescent, en fait. Tu vois,
ouais,
c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'avant, du temps de nos grands-parents, tu passais de l'enfance... À la vie adulte.
Ah ouais, direct à la mine. Ouais, mais c'est clair.
Direct à la mine.
Non, mais ouais,
c'est
ça.
T'allais bosser c'est vrai. À 16 ans, quoi.
Ouais. Et, hein, pardon ?
T'avais une mob et t'allais bosser
ouais,
à 16 ans.
Ouais, c'est ça. Ou t'allais à la ferme.
Moi, je vais te dire,
c'est direct.
J'ai eu la réflexion.
À 18 ans, quoi.
Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec quelqu'un. Moi, je travaille avec des gens très jeunes. Moi, j'ai 30 ans. Je travaille avec beaucoup de gens qui ont la vingtaine, voire un peu plus. Mais qui sont beaucoup plus mûrs parce qu'en fait, ils ont commencé à travailler très tôt. Et c'est ça qui différencie. Donc, à l'époque, on travaillait beaucoup plus tôt. Donc, c'est clair, Tristan, ce que tu dis. Il y avait pas l'adolescence, t'as raison, donc ça reste récent. Ouais.
Et depuis que les parents ont les moyens de faire vivre des enfants, bah, tu sais, bah, voilà, tu grandis, tu peux faire des études.
Prépa HEC, ans, c'est Rouen, et puis ça y est, on est
bosses pas, t'as du pognon, t'as du temps, et donc t'as le temps de déprimer, forcément.
Ouais,
d'où, c'est pour ça que ces personnages m'emmerdent souvent, quoi. Après... après voilà c'est il en faut pour tout le monde.
Et Fouad, ça va faire la transition parce que plus ou moins avec ce que t'as dit, je voulais poser la question, moi, de savoir, pour moi ça, ce film invite à la réflexion, mais le teen movie invite de moins en moins à la réflexion, c'est mon constat. Est-ce que vous le partagez, ce constat?
Oui.
Je pense que la raison pour laquelle c'est, comme Béa l'a dit, Breakfast Club, ça a été écrit pour des ados. Je crois qu'aujourd'hui, on n'écrit plus pour des ados. Je pense que c'est des adultes qui écrivent sur leurs années d'ados.
Ouais,
non, mais ils écrivent sur leur propre ressenti. Ouais. Sauf que c'est un ressenti qui a 10 ans d'écart avec la réalité.
Ouais.
Et là
pas tout
où...
le temps, hein. Faut pas...
Pas tout le temps, bien sûr. Non, pour le coup, le nouveau est assez actuel, ouais. Tu vois, on en a déjà parlé.
Et les beaux gosses aussi.
Et les beaux gosses aussi. Mmh. Voilà, mais il y a quelques pépites comme ça, mais sinon, tu vois, je repense à Rattrapage, tu vois.
Elphone.
Ouais, Elphone aussi, tu vois. Mais il y a plein de films où, en fait, on dépeint l'adolescence bah, comme...
La fantasme.
Voilà, on la fantasme comme des jeunes cons, inconscients, insouciants, sans trop de problèmes, qui traversent la vie... Ouais. Sans se rendre compte en fait des problématiques du monde, et alors qu'en fait on oublie que eux sont en pleine construction de ce qu'ils vont être plus tard, et que eux ils sont dans un marasme et dans une tempête de questionnements et d'actions et de choix.
Et c'est ça qui est intéressant.
Qui est censé les définir, et ouais, c'est ça qui est intéressant,
c'est
et c'est ça qu'on nous montre.
Il envoie des SMS.
Voilà, on s'en bat les couilles, qui s'éclatent, je sais pas, en faisant une partie mousse dans la maison de leurs parents pendant que leurs parents sont en vacances. Putain, on a vu ça 12 millions de fois dans des séries.
Ou alors,
on s'en bat les couilles,
tu
quoi.
Vas en intérieur, tu vas en...
Ouais, voilà, tu vas savoir pour quel type de mousse ils vont chercher, tu vois. Est-ce que...
Et tu vois, on parlait de ça et tout. Après, moi, voilà, ça n'engage que moi, mais Kechiche aussi, je trouve, capte bien l'adolescence.
Kechiche, il a ça aussi. Même si il aime bien filmer de la baise.
Moi, je baisais pas autant quand j'étais ado.
Ouais, non, mais voilà, Béa, apparemment.
Et,
bah, pas, voilà.
Et pas aussi. Et on en parle pas dès qu'il y avait des DM. C'était
open. Gratuit. Non, mais...
Putain, c'est bientôt les compos, je suis chaud.
Les teen movies aussi, non, je pense que c'est plutôt mort. Par contre, maintenant, le renouveau arrive en série. Des trucs, des séries comme Euphoria. Sex Education. T'as des séries très très déprimantes et qui font un constat sur l'adolescence qui fait très peur.
Skins.
Bah, mais, oui,
Skins,
mais en même temps,
Skins, hein. C'était tellement bien. Team.
Mais du coup,
qui, à mon avis, plus que reflète la réalité.
C'est mauvais.
Mais là où je rejoins un fois aussi dans l'évolution un peu de l'humanité, c'est qu'en plus de tout ça, tu parles de séries, c'est que les comédiens adolescents, c'est plus une rareté comme avant non plus. Donc on fait plus de produits, donc on fait aussi des mauvais produits.
Souvent avant, ils étaient joués par des gamins qui avaient 30 ans.
Ouais, il y avait ça aussi.
Bah, suffit de voir aussi le nombre de productions Disney Channel qui sont sorties, quoi.
Ouais,
que ce soit des films de mauvaise qualité, des séries de mauvaise qualité.
Tu peux pas dire ça sur High School Musical, le film.
Non mais ça
on touche pas Lizzie McGuire.
Ça fantase, ça fantase l'adolescence et en plus ça l'oriente. Voilà, donc c'est un peu un double un vase à deux fonds. Je sais pas ce que je dis, la boum de Claude Pinoteau, parce qu'on a parlé de problème, hein, mais on n'a pas parlé de poupette encore. La boum de Claude Pinoteau. Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l'existence d'une ancienne maîtresse de son mari, Dominique Lavanant, elle décide de faire un break, mais du haut de ses 13 ans, Vic ne pense qu'à sa première boum. C'est ça qui est... Ça résume bien le film, qui est un petit peu fouillis en termes de qui est le personnage principal, c'est vrai, hein, mais c'est un... moi, c'est... pour moi, ça fait le charme du film, mais voilà. Alors, c'est bien évidemment Sophie Marceau qui incarne Vic, hein. Mais à l'origine, vous savez qui devait interpréter Vic ?
Josiane Balasco ?
Non. C'est intéressant comme réponse, mais... Parce que bon, on le sait tous, Vic, c'est un peu un... Ouais. Avec un nom très américain, très truc. Mais vous la connaissez. Vous la connaissez parce que vous l'avez vue pendant 1h58 pour préparer cette émission, cette fille. Vous l'avez vue pendant 1h58 pour préparer cette émission. C'est Sheila O'Connor qui joue Pénélope.
Ah, ok.
Donc à la base, ça devait être elle.
Que d'accord, ça coûte.
Et vraiment, quelques semaines avant le tournage, cette fameuse histoire qu'on connaît tous.
De... Enfin, elle est très bien dans le rôle de Pénélope.
Mais... Ouais, mais bon, ça aurait été une toute autre histoire pour elle.
Oui, oui.
Mais Sophie Marceau, on le sait, hein, qui était venue aider une copine pour le casting et c'est elle qui a été repérée.
Ah, ouais.
Et elle s'est lancée dans le grand bain sans avoir aucun cours de comédie, ce qui se ressent un petit peu dans le film. Mais par contre, elle crève l'écran par ce qu'elle est et ce qu'elle sera devenue, c'est... C'est, je sais pas, une icône de beauté à la française.
Madame
Mise,
voilà. Un chef-d'œuvre.
Je sais pas, je l'ai pas vu, c'est ironique, j'imagine.
Ah, c'est de une grosse de... Mais horrible.
Mais je sais pas, moi je pense à la suite avec L'étudiante, par exemple, qui est moins un film qui est une petite Madeleine de Proust pour moi. Mais bref, ce film, je crois que je vais partager ça avec Béa du fait que moi je l'aime ce film beaucoup, hein, parce que moi c'est vraiment une Madeleine de Proust. Je vais commencer par Fouad et après on enchaînera avec Béa parce que Fouad, j'en ai aucune idée. Et je décèle dans ton œil que j'en ai pas plus d'idées. Est-ce que t'aimes La Boum ? C'est quoi ton avis sur ce film ?
Alors pareil, je l'ai vu, je l'ai découvert il y a un an ou un an et demi parce qu'ils étaient.
Ah oui, ok.
J'avais jamais vu.
C'est pas dissonant.
Je l'ai vu sur Netflix. Ils étaient dispo sur Netflix. La Boum 1 et 2.
C'est comme ça qu'ils ont ramené leurs abonnements. C'était leur
grand
Boscom à l'époque. On a La Boum.
Et je me suis dit, mais tiens, alors, et pourtant, c'est un film qui était comme ça dans les parages pendant très longtemps, La Boum. Alors, j'ai dansé sur cette fameuse chanson sans connaître que ça venait de La Boum. J'ai beaucoup entendu parler de La Boum. La Boum, effectivement, c'est la révélation d'une actrice, Sophie Marceau, qui, pour le coup, a eu derrière une grande carrière, ce qui n'est pas le cas de tous les teen movies. Et j'ai passé un bon moment. C'est très, très, c'est pas un film qui m'a, voilà, je l'ai vu, voilà, quoi, il y a tout récemment, donc j'ai pas d'affect avec ce film. J'ai, par contre, pour le coup, j'ai passé un très bon moment, quoi. J'ai vraiment, j'étais, en plus du fait que ce soit français, là, tu peux vraiment t'identifier. Ouais. On n'est pas dans une fac américaine, tu vois. On t'emmène pas en voiture dans une Cadillac. Tu vois, c'est vraiment, tu peux t'attacher d'autant plus au personnage. Et ça parle d'un truc qu'on a tous connu, c'est-à-dire la boum, quoi. Tu vois, c'est la danse, c'est un rite, hein, la boum. Hein. C'est à l'époque, c'était là où tu t'avais une chance de baiser, quoi. En tout cas,
de faire des bisous.
De faire des bisous.
Là, on est sur du 13 ans. Hein.
Ah ouais.
Donc,
enfin, ils vont assez loin dans la boum. Pardon, ils ont 13 ans, mais.
Ouais, ils vont
ouais, ouais, c'est quand même.
On rappelle la scène du popcorn.
Il y a de la bite dans du. Voilà. C'est même pas des popcorn.
Des chipsters.
C'est des chipsters.
C'est des chipsters.
Mais c'est ouf.
Je sais pas ce qu'il y a de mieux sur la bite. Aucune idée.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux au cinéma? Qui mange de chipsters au cinéma déjà?
Non, mais elle est devenue culte cette scène.
Ouais, complètement.
Mais j'ai pas de. J'ai pas d'affect. J'ai pas d'affect particulier avec.
Avec la boum, d'accord.
Avec la boum. Mais je trouve que c'est très. Aussi bien le 1 que le 2 sont vraiment très fun. Ouais.
Béa, là, c'est tout à fait différent.
Bah,
là,
c'est tout à fait différent parce que moi, je m'identifie.
Ça résonne chez toi.
Mais oui, mais moi, je m'identifiais totalement à Vic. Comme je disais dans l'introduction, moi, j'étais plus jeune, mais je me disais, oh là là, je vais vivre ça. Et j'étais comme elle quand même. J'étais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce que je fais? Oh, il est trop beau! Enfin, voilà, c'était ça. Enfin, j'étais à fond. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir. Je vous l'ai un peu dit, mais j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère genre poupette. Ce qui fait que c'est une grand-mère avec qui je partais en vacances, à qui je racontais mes histoires d'amoureux et tout. Non, mais non, elle
poupette
était,
alors, elle, dingo,
était beaucoup, plus calme. Mais voilà, c'est ma grand-mère qui m'a emmenée pour la première fois au McDo. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je partais en vacances avec ma grand-mère, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, je m'identifiais vraiment. Alors. Évidemment, c'est très désuet, que ce soit dans la façon de parler, bon, on en parlait un petit peu, mais « Oh, sois chic !» Enfin, ou même les prénoms,
ouais,
et tout. C'est désuet, mais je trouve que c'est tellement charmant.
Je peux me permettre de donner un autre exemple, Béa, qui me fait trop rire. C'est comme quoi, là, la vie ne fait qu'avancer tout le temps. C'est là, sa mère qui dit « Ah, t'as une surboom !» Mais non, maman, c'est pas une surboom, c'est une boom. Alors que maintenant, boom, c'est ringard, oui, c'est sans fin, quoi.
Et alors, justement...
C'est dark, quoi, je trouve.
par rapport à ce que
c'est
tu,
bat.
Par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est que c'est tellement le reflet d'une époque et sans artifice. C'est vraiment les années 80 telles qu'on les a connues. Et,
une gosse de 6 ans qui est amoureuse de Claude
Mais bien sûr, mais évidemment que les gamines, moi j'ai déjà été amoureuse d'un, enfin pas amoureuse, mais de voir le père, mais non.
Ouais.
Voilà, et de me dire il est pas mal.
Qu'est-ce qu'il est sexy.
Mais évidemment, non, c'était mon prof de piano. J'étais amoureuse de mon prof de piano.
Nous, on a tous été amoureux de notre
Sébastien le loupard.
On a tous été amoureux d'une prof, nous.
Mais oui, non, mais enfin voilà. Bref, mais au-delà de ça, donc là c'est pour l'aspect, on va dire, sociétal du film, mais au-delà de ça, c'est quand même, je trouve, un film bien écrit, dans le sens où, alors déjà il est bien joué, parce qu'il y a quand même Denise Gray, Claude Brasseur, Brigitte Fossé, enfin c'est quand même Bernard Giraudot, enfin c'est quand même
Jean-Pierre Castaldi,
ça va
Jean-Pierre Castaldi.
Mais, non, et moi ce que je trouve plutôt intelligent, c'est d'avoir le parallèle entre les problèmes amoureux de la gamine et les parents qui finalement, à plein de moments, se comportent comme des ados, en fait, et je trouve ça plutôt intelligent. Et c'est charmant, enfin voilà, c'est le mot qui me vient, voilà, je trouve ça charmant, et effectivement moi en plus ça résonne, enfin ça résonne sur mon enfance.
Ouais, carrément. Et tu parlais de charmant, c'est aussi, on l'a pas mal dit, se retranscrire une époque. C'est con, mais les rues de Paris, la façon de parler,
les clubs,
les voitures,
les boîtes de nuit avec des rollers, enfin. Rien que
le téléphone, tu sais, elle est là et elle bloque la ligne. Mais moi, le nombre de fois où je me suis fait engueuler par mes parents en disant mais raccroche et tout, enfin tu vois.
Est-ce que rigolo, c'est et ça retranscrit bien l'adolescence, et ça c'est quelque chose qui a pas changé dans tous les ados, ce truc de conversation futile, mais c'est ta vie, quoi.
Hyper important.
Et là, elle est vraiment une heure sur les fringues, quoi. Et c'est cool, quoi, de savoir retranscrire ça. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Et je trouve qu'en vrai, alors on peut contester les jeux, mais tous les dialogues entre Vic et Pénélope, des dialogues un peu de minette midinette, quoi, je sais pas, et je les trouve très cool, moi, parce qu'en fait on n'a pas cherché à surécrire, on a écrit pour moi
il est juste, en fait, en termes de il en fait pas trop,
voilà. Et Tristan va-t-il abonder là-dedans, ou Tristan, tu l'as vu quand, ce film, toi, déjà?
Là.
Ah, ok, ah, oula, oui,
là, je pensais l'avoir vu. Pensais que mes parents me l'avaient montré, mais en fait j'en avais aucun souvenir. Je pense que je l'ai pas vu.
Toi, tu ressembles un peu à Pierre Cosso dans La Boom 2. Je te le dis, hein. T'as son charme.
Bah, il y a encore la musique de merde là qu'on entend dans le 1 10 fois.
Non, c'est une autre.
Je supporte plus cette chanson.
Ouais, voilà,
mais c'est le problème. Je déteste cette chanson.
Mets un pull autour de tes épaules pour voir si tu ressembles à Pierre Cosso dans La Boom 2.
Mais le laisse tomber quand même. Merde, en plus, à la fin du film.
Le 1 ? Dans le 1, ouais. Mais Pierre Cosso, c'est dans le 2. Mais ouais, ouais.
Mais je pense que mes parents étaient plus team Soudoué. Enfin, j'ai beaucoup vu les Soudoués, ouais. Moi. Alors, peut-être qu'ils ont fait un choix pour me montrer.
Mes parents, ils ont l'air carrément plus cool, en fait.
Je sais pas, peut-être.
Ils voulaient que je divorcer, surtout. Contrairement aux miens qui regardaient.
Ils voulaient que je triche au bac, peut-être. Et non, mais il faut savoir que je suis dans la cible. Ma sœur s'appelle Pénélope. Et déjà, il y a un truc.
Il y a un autre mec qui est dans la cible, c'est Olivier Mine. Pardon.
Je crois que c'est le plus difficile.
Pour toi, le frère de Thomas qui joue dans la cible.
C'est vrai qu'il est passé dans la cible.
C'est vrai ?
Ouais, Maxime a échoué. Mais
très rapide.
Donc, fait Nagui.
Maxime a échoué.
C'est vrai, t'as fait Nagui ?
Deux fois.
Lequel ? Tout le monde veut prendre sa place ?
Tout le monde veut prendre sa place deux fois, ouais.
Mais non, mais pourquoi personne ne retrouve ça ?
Ça, c'est sur Twitter, très vite.
Et je l'ai, il y a sur YouTube, je crois. Il y a que je vous les envoie le lien.
Ah bah, ah ouais. Ça,
et
ça.
Nagui m'a vanné violent. Et après, la deuxième fois, j'y suis retourné en mode je vais tout défoncer et j'ai fait zéro.
Oh.
Et après, bon, plus jamais rappelé.
Pas, moi, mon père s'est fait caler au casting de Tout le monde veut prendre sa place. Et je trouve ça.
Il fallait avoir une super anecdote en fait.
Ouais,
moi je me suis fait caler à l'école des fans.
C'est vrai ou pas ?
Non.
Parce que j'avais
mon
pas
rêve de passer à l'école des fans.
C'est vrai, parce qu'en plus,
je voulais avoir les cadeaux.
Là, on était sur le prénom de la sœur de Tristan, on a un peu dévié. Hein, mais Tristan, donc ta sœur s'appelle Pénélope, donc effectivement. Ce qui est un joli prénom. Hein.
Tout à fait.
Voilà. C'est très joli.
C'est vrai, je sais pas si c'était ça ou si c'était pour Ulysse, mais.
Mais Tristan et Pénélope. Et ta sœur s'appelle Jade.
Ouais.
En termes de prénom.
Tu veux les noms de mes parents ?
Bah, je veux bien. Non, ouais. Bah non, ils ont pas choisi. Mais en termes de prénom, tes parents se débrouillent pas mal. C'est pas trop dans la ligne édito de l'émission, mais je trouve que voilà, plutôt que d'appeler vos fils Kevin et Brandon comme tout le monde. Tristan, pardon. Je me suis un peu.
Je me suis un peu fait chier quand même.
Ok. C'est un peu.
C'est. Bah, c'est. Attention, tu le vois en 2020. Je pense que c'est très niais. C'est un peu. C'est gentil. Bah, je comprends qu'il y a de la nostalgie. Moi, j'ai eu quelques sourires un peu. Parce que je sais que c'est, ça n'existe plus. Enfin, il y a des scènes qui n'existent plus dans la vie d'ado. Enfin, c'est et pour toi, c'est un peu une Madeleine de Proust. Je trouve que c'est un peu une Madeleine de Prout, tu vois. Sur...
D'accord. J'ai saisi moi... le jeu de mots.
Voilà. Et je sais pas. En plus, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé sur c'est des pré-ados. Ils ont 12, 13 ans. Enfin, c'est très jeune et il se passe des trucs. Juste le coup du popcorn, le coup du cinéma, moi je suis choqué en fait.
Ouais, moi pareil.
Je suis choqué de voir des enfants de 13 ans faire ça. Bah, je sais pas. De foutre la tapite dans du popcorn, c'est un peu.
Ouais, mais c'est parce que je pense que on faisait ça. Non, mais.
C'était la belle époque.
C'était pas.
Moi je faisais ça. Je faisais des trucs un peu limite comme ça. Je sais très bien que j'étais complètement obsédé et que. Alors c'était pas à ce point-là, mais j'étais limite quoi.
Mais oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça passerait pas. Et c'est pour ça que t'es choqué, parce que tu le vois aujourd'hui. Mais, il y avait des choses qu'on voyait au cinéma qu'on ne reverrait plus aujourd'hui.
Oui, bien sûr, ouais, non, c'est clair.
Comme il y a plein d'humoristes qui aujourd'hui passeraient plus. Enfin, voilà.
Mais rien que pour la scène de Claude Brasseur qui fait du patin. Ça vaut.
Ouais, parce que c'est bien Claude Brasseur qui fait du patin. Et on verra plus tard dans l'émission qu'on aura Napoléon qui fait du toboggan. David sur la boum.
Et moi, pareil, je suis team Tristan parce que je l'ai découvert il y a 3 jours.
C'est pas vrai, David !
J'ai vu la boum. Et déjà, ma première réaction, ça a été... Ça dure 1h50.
Ouais.
La vache. Et après... Ah, il y a Jean-Pierre Castaldi. Mais donc, du coup, ouais, tout de suite, t'es dans le bain parce que t'entends la musique culte. Et effectivement, moi...
Quelle musique ! Insupportable.
De toute façon, vous l'avez eu en fond et vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin de votre vie.
Mais moi, j'ai bien aimé le côté. En fait, j'ai surtout aimé les parents. Le côté 68 art, baba cool, tranquille.
Blindé.
Mais
baba cool, baba cool.
Bon, après,
blindé.
Il se tape Dominique Lavanant, pas la classe ultime.
Voilà,
quoi.
On ne juge pas, mais.
On ne juge pas, mais. Ouais. Là, elle se tape quand même Bernard Giraudot et il s'est un peu fait arnaquer quand même.
Par rapport à... Bon, après, c'est du jugement de valeur, ça, David, ça n'a pas sa place ici dans l'émission.
Tu pourras couper si tu veux. Tu peux couper.
Non, mais c'est surtout ce qui était très drôle, c'est que t'allais commencer un débat là-dessus. J'ai vu ta tête. Oui, mais pourquoi tu dis ça ? Ouais, non, en fait, c'est
physiquement, tu préfères... Voilà, on fait des jugements.
C'est comme tout à l'heure, j'ai gueulé salope, tu pourras le dégager aussi. Si
ah, j'ai pas entendu, mais...
Alors, j'ai trouvé que les enfants, en général, jouaient tous super mal, mais... Par rapport à ce que j'imaginais, j'ai trouvé que c'était plus moderne que ce que je pensais. C'est-à-dire que bah, voilà, vous en avez parlé, etc. Mais j'ai quand même du mal à me dire si on est dans le charme suranné ou si on est clairement dans la parodie. Et maintenant, tu regardes le film, je ne sais pas si tu as fait pareil, j'ai eu un peu l'impression de voir une parodie avec les « j'ai rien à mettre !» Enfin, des trucs comme ça.
Mais c'est tellement... Mais c'est pas une parodie du tout, toi, t'es pas une gonzesse. Hein.
Bah, ouais,
vraiment,
mais,
hein,
des fois, j'ai
t'assure.
Rien à mettre, mais je mets un t-shirt, tu vois, je m'en fous.
Mais t'es un loubard, toi.
Bah, mais c'est ton pire.
T'es un cul.
Et mes bottes de moto.
Tu mets des mitaines.
et en fait, au final, bon, j'ai quand même le dire, les personnages, ils sont vachement attachants, notamment Poupette, qui est assez géniale, elle est féministe, elle est fun.
Elle est folle dingo.
Voilà, elle est stylée, c'est trop rigolo.
Elle est très moderne, hein, Poupette.
Ouais, non, carrément. Mais bon, alors c'est rigolo parce que tout le monde parle de Poupette, mais maintenant elle est morte depuis longtemps, donc il faut arrêter d'en parler de Poupette.
Ah, elle est décédée en 96, cette actrice.
Et ben voilà, c'était il y a longtemps. Mais du coup,
désolé. Pourquoi j'ai cette info aussi directement, mais
10 ans après, ouais.
Et donc du coup, j'ai pas vu la suite, mais je pense que je la regarderai
c'est
pas.
C'est du même acabit.
Oui, c'est pareil.
Mais tu vois, moi, ça m'a vraiment.
Oui, voilà, j'ai pas envie de voir la suite.
Moi
voilà,
non plus, tu vois.
Et l'étudiante, c'est presque la suite. Ouais. Parce que
ça,
c'est
je
encore,
crois que j'ai vu l'étudiante.
Et le brio.
Et le brio, c'est encore la suite. Et et à la 2, encore la suite. Enfin, tout a.
C'est fou.
Mais tout est lié. Tout est lié.
Et tu vois, ça m'a vraiment remis dans mes 13 ans. Donc
Romy Schneider, je suis désolé. Je suis fatigué, il fait chaud.
J'étais un petit peu en angoisse parce que je me suis rendu compte que, en vrai, on se faisait chier en Boom. C'était l'angoisse totale. Enfin, moi les Boom, c'est les pires souvenirs de mon truc. J'osais pas aller voir les filles. Personne venait me chercher. Il y avait Céline Dion, il y avait Whitney Houston.
Sauf que David, là, ce que tu dis pas, peut-être qu'à l'époque, personne ne venait te chercher. Mais qui est-ce qui est venu te chercher pour parler en péloche? Thomas Dezer, et ça vaut mieux qu'une pelle dans un endroit moite avec du David Sanderson, mes couilles.
C'est vrai, et ce qui sera encore mieux, c'est une pelle de Thomas Dezer.
Et ça ne saurait tarder, je prévois ça pour le numéro 92, David.
Mais alors du coup, ce qui est triste dans toute cette histoire, c'est que maintenant, je m'attache et je m'identifie carrément plus aux parents, en fait. Et donc du coup, et moi, j'ai envie...
Le mec s'identifie à Claude Brasseur.
Mais ouais, mais il est trop cool, Claude Brasseur. Il est là, il picole du vin, il des pâtes.
Il s'en fout de notre logique un peu.
Mais bien sûr.
Le numéro 42.
Je peux faire une parenthèse qui a rien à voir, mais je crois que je voulais l'envoyer à David, mais il y a quelqu'un.
Apparemment, il y a vrais private jokes avec David, mais bon, ça dérange personne.
Pardon, mais il y a Camping qui est passé, Claude Brasseur, il y a Camping qui est passé, et il y a quelqu'un qui a fait une théorie qui explique que c'est pas logique que Claude Brasseur soit arrivé au Camping avant.
Ah oui, je l'ai vu
avant
ça.
Avant Mathilde Seigné et je sais plus.
Je l'ai retweeté.
Ah, mais c'est pour ça que je l'ai vu, ouais.
Ouais, en fait, parce que les Gatineaux, ils habitent vachement plus loin, ils habitent genre à 12h et ils arrivent au matin. Et Claude Brasseur, à l'emplacement 17, il habite à 4-5h et il arrive carrément tard dans la, donc je sais pas voilà. Ce qu'il a fait. Mais...
et voilà, quelqu'un qui a fait une théorie. Je trouve ça intéressant. Mais peut-être qu'on digresse, non?
Bah oui, on a une deuxième émission enregistrée après.
Ouais. Il commande des pizzas. Mais du coup.
Il a pas fini, hein. C'est ça qui est chiant.
C'est la dernière phrase.
Je pense que voilà. Déjà
de quoi?
On parle de quoi? Ah oui. Ah oui, pardon. La boum.
Mais ouais, je pense que vraiment, c'est un film qui est culte quand on a vu le film à 13 ans, c'était les années 80. Je pense que pour nous, clairement, c'est trop tard. Mais voilà.
Ouais, mais tu vois, moi, La Boom, je trouve ça plus sympa que. Tu vois, je me suis plus reconnu dans La Boom que dans Breakfast Club.
Ah ouais.
Parce que Breakfast Club, aucun personnage me parle.
Ouais. Donc,
alors que La Boom, tu vois, je trouve que c'est. Voilà,
moi, j'adore Breakfast Club pour ce que ça évoque, mais je me reconnais pas là-dedans.
Ouais.
Mais...
c'est peut-être pour ça qu'il a pas marché d'ailleurs.
Dans Breakfast Club, alors que La Boom, c'est des. Enfin, vraiment, c'est.
Ah, mais moi, c'est l'inverse, tu vois, c'est marrant.
C'était peut-être parce que toi, t'étais dans le clan des cools. Et moi, j'y étais pas. Moi, j'avais pas de mob.
C'est quoi être cool?
À cet âge-là, on est tous pareils. Hein.
C'était Antoine. C'est dommage que je vais encore parler parce que j'aurais conclu sur La Boom. Mais Antoine, ton avis sur La Boom?
Je déteste ce film.
C'est vrai? Tu l'as vu à quelle heure? À quel âge?
C'est bizarre.
Je l'ai
ça.
Vu au moins 5 à 6 fois entre mes 9 et mes 12 ans.
Donc,
c'est marrant, La Boom. J'adore La Boom.
J'ai horreur de ce film.
Mais on te forçait à le voir pour l'avoir vu 5
fois.
Bah ouais,
pourquoi tu l'as vu autant si t'as détesté?
Moi je veux pas.
Parce que ma soeur l'adore.
C'était l'enfance de.
Ah!
Oh là là.
Ah, mais c'est peut-être un rejet de ta soeur plutôt, non?
Non, non.
Allonge-toi.
Elle est deep cette émission.
Il n'y a pas de souci. Honnêtement, je vais laisser une seconde chance parce que je l'ai regardé il y a 2 jours, La Boom, en me disant, bon,
ouais,
je l'ai pas vu depuis 15 ans, 16 ans.
Souvenir,
non, 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 il n'y a pas de souci. Non, c'est juste que ce film, je le trouve malsain. Et c'est
malsain?
Malsain?
Ah, bah voilà.
Ok, boomer.
D'accord. Non, pardon,
non,
pardon.
Ça marche pas du tout. Là.
Mais c'est parce
fort,
que.
Ça, comme...
Je suis désolé, mais en fait, j'ai l'impression que tous les adultes de ce film sont problématiques. J'ai l'impression qu'on ne parle techniquement que d'adultère, voire même de. En gros, c'est cette vision un peu où donc c'est censé être, ça s'appelle La Boom, c'est censé être tourné sur des adolescents. J'ai l'impression que moi, les dialogues, je les trouve pas très bien écrits. J'ai l'impression que c'est des adultes de 40 ans qui écrivent des dialogues de gamines, et ça me gêne. J'ai l'impression l'impression qu'ils écrivent des personnages de 40 ans ou des ados qui aiment des gens de 40 ans. Et ça, je le ressentais déjà quand j'avais 9 ans.
Surtout Claude Brasseur.
Tu vois. Mais ouais, non, mais il y a tout un sous-texte où, je sais pas, moi, quelque chose qui me gêne, qui ne me va pas dans ce film à aucun moment. Je trouve que, je suis désolé, mais Sophie Marceau ne me touche pas. Je trouve pas que c'est une vision des booms qui existe. Je trouve que c'est vraiment une image d'adulte de ce qui est censé être une boom. Et ça me choque.
Ah ouais, bah non, moi je les ai vécus ces booms-là.
Ouais, bah j'ai vécu des booms aussi, mais c'était pas comme
ouais,
ça.
Ouais.
Et surtout, il y a...
du parc et du évanescence.
Et surtout, il y avait pas du panaché. Tout ce truc, je trouve vraiment que pour moi, les adultes sont un problème dans ce film.
Alors, tu peux, à cause de l'adultère, mais les gens se trompent, tu sais.
Au-delà de l'adultère, c'est que ça a,
c'est malheureux.
Ça a plus long que ça.
Malheureux, mais c'est bien vrai. J'ai oublié de vous poser la question box-office sur le film. C'est fou, ça. On va faire un tour de table, Béa.
France. 2,8 millions.
David.
6,5 millions.
Ah ouais, Antoine.
Ouais, j'allais dire 6,3 millions.
6 millions.
Ah ouais.
7,5 millions.
7 millions.
Bah ouais.
3 millions.
3 millions. Et c'est 4,378 millions. Ce qui est rigolo, c'est qu'il se situe au-dessus, en termes de succès au box-office, d'un autre film majeur de l'année 1980. C'est quoi ce film? Un film majeur qui est sorti en 80. Un film que Béa aime
français
bien. Non, non, américain.
Les Dents de la Mer.
Non.
Shining.
L'Empire contre-attaque.
Non. Ah.
La Boom, la Boom a battu l'Empire contre-attaque.
Ah ouais.
Et autre chose, c'est 4,378 millions en France. En Italie, 7,800 millions personnes sont allées voir la Boom. Ce qui fait qu'en Italie, il est au-dessus de E.T. l'extraterrestre, la Boom.
Énorme.
Donc c'est un succès incroyable. Et, ça parle à l'Italie. Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté à l'italienne dans ce film. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Ah, mais c'est un film qui a cartonné encore plus que dans son pays d'origine.
Le restaurant, ouais.
Le restaurant, c'est non, mais encore plus que dans son pays d'origine sur l'Europe. Il ne doit pas y avoir des centaines de films qui sont dans ce cas-là. Et voilà, mais bon, ça parle d'amour, de l'écharpe.
Il est placard, donc.
Celui-là aussi, ouais. Ma question, en fait, quelque part, on y a un peu répondu avant, mais si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Je me demandais pourquoi le teen movie ne parle plus réellement de l'adolescence aujourd'hui. Antoine a très bien répondu en disant que c'est parce que c'était écrit par des adultes sans vraiment prendre en conscience ce qu'était l'adolescence.
Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, un ado, s'il veut voir quelque chose qui lui parle, aujourd'hui, bah, il ouvre YouTube et t'as pléthore de chaînes tenues par des ados et qui parlent de leur vie d'ado, que ce soit la vie amoureuse ou les nanas, les tutos make-up ou et la télé, la télévision.
On passe à un chef-d'œuvre tout de suite, là, hein. Un chef-d'œuvre? Non, pas juste qu'on fera les films où les grandes figures de l'histoire française font du toboggan. Pour l'instant, on fait pas ça, mais on le fera plus tard. Bill and Ted, excellente aventure de Stephen Erek. Bill et Ted sont des cancres au collège, mais pas des loupards, des cancres. Mais avec l'aide de Rufus, ils ont mis au point une machine à voyager dans le temps sous la forme d'une cabine téléphonique. Ils naviguent ainsi dans l'histoire et le futur à la rencontre d'embûches et aventures diverses. Mais ils arrivent toujours à survivre grâce à leur talent d'explorateur. J'ai pas de questions anecdotes, j'ai pas de questions d'autres choses. Vraiment, là, il y a dû laisser aller, mais je n'ai rien trouvé sur ce film. C'est
ce film est atterri dans la sélection.
T'aurais pu quand même te demander
aux deux, là, demander à David Marmion.
Je n'ai pas compris ce film.
Je vais donner la parole tout de suite.
C'est Jean-Louis David qui a fait la coiffure.
Il y a une question que tu pouvais te poser, c'est qu'est-ce qui est prior, Wayne's World ou Bill and Ted?
Oui.
Bill and Ted.
Voilà. Que le...
Alors en film, mais ce qui est très intéressant, c'est que Wayne's World, le premier sketch de SNL avec les personnages de Wayne's World sont sortis 8 mois auparavant.
Ouais, mais le film était déjà dans les tuyaux. Enfin,
Il était dans les tuyaux, mais pas avec le même type de personnage.
Continue d'animer.
Bref.
Mais
je me suis vraiment posé la question.
Parce que pour moi, du coup, c'est Mike Myers qui a un peu piqué.
Ouais, mais moi, je me suis posé la
question. Mais oui, c'est exactement.
Ils avaient déjà fait ça ou pas?
Ah, ils l'avaient fait déjà avant.
Mais combien de temps avant? Si le film est déjà
8 mois, ils avaient fait, je crois, 6 émissions avec ces personnages-là.
Avec Excellent qui revient.
Ouais, mais alors, il était sûrement déjà tourné ou autre. Mais je trouve ça assez intéressant qu'au même moment, on ait un même type de duo qui sorte. Et d'autant plus qu'on a Wayne's World 2 ans après.
Moi, j'ai complètement pensé à Wayne's World.
Mais ils ont eu du mal à le sortir en fait, Bill and Ted, donc c'est tout à fait possible en plus.
Ouais,
que...
totalement.
Mais c'est sorti plus tard plus tard que ce qu'il aurait dû. Il est sorti avec au moins un ou deux ans de retard.
Il n'y a aucun doute. Je pense qu'effectivement, Bill & Ted est avant. Mais bon, Keanu Reeves, quoi. Keanu Reeves, qui est quand même assez impressionnant.
Mais c'est vrai que le air guitar, c'est tellement Wayne's World. Ouais,
Et je trouve que c'est très 90, en fait. T'es déjà dans les années 80, mais c'est ultra 90.
Pour moi, c'est dans l'esprit, en fait. C'est pas du tout années 80.
Non, mais c'est fin années 80, mais c'est précurseur.
Ouais, c'est très 90.
C'est-à-dire que... parce qu'il y a du rock, en fait. Il y a de la guitare.
On est passé au rock, on est plus dans le synthétiseur.
Et dans le son, c'est 90, quoi. Moi, j'étais vraiment
dans les années 80, mais complètement. À la retour à le futur, tu vois.
Pour moi, c'est des coupes de cheveux des années 80.
Ouais, déjà, les sacs bananes, etc. Ce que tu veux. Les effets spéciaux, les
voilà, le voyage dans le temps et tout, c'est très.
Et puis, ayant découvert Keanu Reeves.
Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas une discussion ouverte à chaque fois sur les films?
Ça fait bizarre de le voir dans un rôle.
On a pas besoin de Thomas, en fait.
Mais pour l'un débile, quoi. Tu l'as vu avec la taille là-haut ou non?
Non, je l'ai pas vu.
Non, mais après, en fait, il aura fait deux films et après, il aura essayé toute sa carrière de faire oublier ce rôle.
Ouais. Mais moi, je l'ai découvert dans ses rôles dramatiques. Moi, je l'ai vu dans, j'ai découvert dans Dracula, moi, Keanu Reeves.
Ah, ouais. Ah, oui.
Et après, Speed, après Little Buddha.
Bill & Ted, et après, tu te fais. Non, mais il a joué.
Et puis, il a joué Buddha. Il a joué Buddha chez Bertolucci.
Mais on l'attend ou on continue, là, du coup?
Il a dit de continuer.
Et donc, du coup, il y a le numéro 3 qui sort en 2020.
Ouais, alors le 2, vous avez vu le 2?
Non, j'ai pas encore vu le 2. J'ai été voir la bande-annonce, par contre, ça a l'air ultra foutraque, ils sont morts et ils traversent le purgatoire et dans tous les décors c'est complètement
c'est génial.
Mais c'est génial qu'il y ait une nouvelle version qui sort en 2020.
Quand vous avez balancé la bande annonce, j'étais tellement hypé, mais vous vous rendez pas compte à quel point j'avais la banane. J'ai juste envie de
voir excellent to each other.
En espérant
mais 40 ans plus tard et
30 ans plus là,
c'est John Wick, sauf qu'il a pas de flingue et il a une guitare. Mais
je sais pas,
c'est assez rigolo de se dire j'espère que ça sera pas aussi nul que Dumb and Dumber 2, tu vois, en tant que suite de film débile tardive.
Moi j'avais bien aimé, mais
parce que
nostalgie.
Oui, c'est ça, mais regarde jamais les deux à la suite.
Non, c'est sûr que c'est pas si bien, forcément.
Mais ça, c'est.
Mais pour le coup, comme Thomas a dit, Napoléon à l'Aqua Boulevard, moi, ça me.
Ouais, non, mais puis
c'est génial.
Cool, Gengis Khan qui fait.
C'est génial.
Et parce que c'est même le principe du film.
Puis l'accent français de Napoléon.
Ah oui, il est vraiment nul.
Mais juste, vous l'avez découvert quand, ce film?
Alors, moi, je l'ai découvert.
Ah oui, par hasard, on est d'accord.
Moi, je l'ai découvert.
C'est pas un film référence.
Ah non, si, par contre, je sais
qu'aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis.
Aux États-Unis, c'est culte.
J'ai vu tellement de t-shirts de Bill & Ted. Il fait vraiment partie de la pop culture.
Moi, c'est pareil, ouais. Parce que Breakfast Club, en France, c'est pareil, il est pas ultra culte en France.
Oui, mais c'est devenu.
Mais tu vois, moi, Bill & Ted, je l'ai souvent cherché.
Une référence.
Moi, j'ai souvent cherché Bill & Ted parce que, justement, j'en entendais parler dans plein de trucs, dans des séries, dans des films, etc. Okay. Et donc, du coup, quand je l'ai découvert, j'ai compris le culte qu'il y avait autour. Mais effectivement, c'est encore un film qu'il vaut mieux avoir vu plein dans les années 80 pour suivre le. C'est un peu. Un peu vieillot maintenant, comme on dit. Mais...
Et il aurait pu poser la question, mais c'était pas Keanu Reeves qui était pressenti pour le rôle à la base.
C'était qui?
Ils avaient pensé à River Phoenix, Sean Penn ou Brendan Fraser.
Ah ouais.
Brendan Fraser, il aura fait à peu près le même rôle après.
Ouais.
Mais
ouais.
Dans la Sean
momie.
Penn.
Sean Penn, il avait fait. Il avait fait
Ridgemont High. Ouais,
ouais, Ridgemont High. Ouais.
Tristan, qu'est-ce que tu penses de Bill & Ted Excellent Adventures?
T'es vraiment nul en fait.
Absolument nul.
Absolument.
Il y a eu trois bégaiements sur une phrase.
Non, alors l'avantage c'est que moi je sais que ce sera jamais moi.
Ah mais moi ce sera jamais moi non plus.
De toute façon, on a déjà décidé, c'est Fouad.
Ah non, c'est toi.
Mais non, parce que tout à l'heure, quand Thomas en a parlé, Fouad, il a fait.
Émission, si c'est David.
Fouad a fait, évidemment, genre, il a fait un air, évidemment que c'est.
Il est animateur, Fouad.
Il est animateur.
David,
c'est toi qui
vas
présenter.
Non, non, mais moi, déjà, aucune de mes propositions n'a été retenue. C'est clair et net. Mais Bill & Ted.
Vas-y, dis devant les gens ce que tu m'as dit en off, que tu étais d'accord avec moi, qu'il fallait mettre The Outsider, mais juste comme tu avais la flemme, et bah t'as dit. T'as dit, on va garder Bill & Ted.
Je m'en veux.
T'es d'accord?
Après, on n'est pas là pour ça.
Mais comme je l'ai déjà vu, je l'avais déjà vu, si tu veux. Et j'avais pas le temps de me repasser encore un film, tu vois.
Savoir que la flemme joue beaucoup.
C'est de la pure flemme.
Tout le monde l'a découvert là, du coup.
Ouais, moi je l'ai découvert là.
Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps.
Mais moi, ça fait tellement écho à Dumb and Dumber.
Moi, j'ai découvert durant le confinement.
C'est pareil.
Et j'ai regardé un dimanche après-midi.
Ouais, mais tu vois, moi j'aurais bien aimé un truc un peu plus dramatique, tu vois, qu'on change un peu de poilade et de la déconnade.
Voilà, boum, c'est dramatique, hein, elle pleure. Et tout,
ouais. Non, mais tu vois, c'est un film.
Elle s'en bat les couilles de son mec à la fin.
Ah, mais c'est marrant, là, il y a un peu de fantastique, c'est ça qui est cool, je trouve.
Ça fait penser à Beavis et Butthead, Wayne's World.
Exactement. Et pour le coup, le concept est con, quoi. Enfin, c'est juste pour réussir un exposé d'histoire. Ils vont aller chercher
les vrais personnages
historiques. Enfin, c'est complètement con.
C'est rigolo.
Est-ce que c'est ce que tu ferais si t'avais la possibilité de voyager dans le temps,
quoi. Ah, puis c'était dans le
faire de l'Aqua Boulevard à Napoléon.
Dans le Honest Trailer, ils disent au lieu d'essayer de voir comment ça se passe dans le passé, ils kidnappent les gars et puis puis le final, il est génial, il est super jouissif. J'étais mort de rire, mais c'est complètement débile, quoi.
C'est clair. Mais bon, ils vont pas aller tuer Hitler, tu vois. Ils vont pas faire un truc qui va révolutionner l'histoire. Ils vont.
Alors au départ, dans le scénario initial, ils allaient chercher Hitler en fait, et finalement ils l'ont enlevé. Et pareil, ils ont changé.
Bon, enfin, après ils ont pris Gengis Khan qui a aussi tué.
Oui, oui. ils devaient pas voyager dans une cabine téléphonique. Normalement, ils étaient dans une voiture. Et en fait, comme c'est sorti après, après Retour vers le futur, ils ont dit bah non, c'est trop proche.
Et Retour vers le futur devait être dans un frigo à la base.
Moi, je pensais que la cabine téléphonique c'était une référence à Doctor Who.
Ah mais non, pas du tout. Ils se sont dit on va prendre une référence Doctor Who, ils sont tous entassés dedans.
Mais c'est marrant.
Mais normalement, les effets spéciaux, ils sont trop.
Mais c'était pas une voiture, c'était un fourgon, je crois.
Bon, les effets spéciaux, c'est il était une fois la vie, quoi. Dans les organes.
Tu sens que c'était vraiment le
déclin.
C'est les vaisseaux sanguins, quoi.
Non mais ce que je trouve dommage, c'est que à la limite, le principe, le pitch de base, pourquoi pas. Mais après, ça se répète, en fait. Il n'y a pas de nuance.
C'est
comme une suite de sketch. Donc, c'est pas désagréable à regarder. Franchement, tu vois, ce que je t'ai dit, c'est pas nul.
C'est complètement débile.
Mais voilà.
Pour moi, c'est comme Dumb and Dumber, Emek et Lou Maquès.
Moi, c'est juste ça que je reproche, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt.
Je le rejoindrais plus de Emek et Lou Maquès, parce que Dumb and Dumber.
C'est une aventure aussi,
Mais Dumb and Dumber, t'as quand même une profondeur dans la débilité. Je pense que pour moi, c'est l'alpha et l'oméga Dumb and Dumber, tu peux pas faire. Ouais. Tu veux pas faire mieux.
Bah non, c'est porté par Jim Carrey, Jack Daniels.
Et donc du coup là c'est enfin tu vois les deux, enfin Keanu Reeves et je sais plus comment il s'appelle l'autre acteur qui a plus fait grand chose.
L'autre il a rien fait après si.
Bah il était culte à l'époque et puis je crois qu'il a fait un film à gros budget avec des qu'il avait réalisé lui-même avec des frics et ça a fait un four monumental et depuis ce temps-là on n'en a plus parlé. Je sais plus comment ça s'appelle, pas frics ou un truc comme ça. Mais du coup non c'est vraiment un film débile qui est génial pour ça.
Putain, mec, c'était génial.
Alors, je suis revenu là. Du coup, je voulais savoir, j'ai filmé tout, je regarderai, mais qui a animé pendant que j'étais pas là? Alors, qui a pris ce lead?
Alors, on alors,
Antoine
pas
a essayé,
il a merdé. Il a pas réussi. Et après, ça a été parlé, plus une discussion.
Un bâton rompu.
C'est un peu l'analyse que j'ai chez vous. Vous êtes des gens sympathiques, mais ça manque de lidora. Donc, heureusement, je suis là. Est-ce que tout le monde avait parlé de ce film de merde ou est-ce que.
J'ai pas dit tout ce que je voulais.
Vas-y, Antoine, je t'en prie.
Il attend vraiment que le maître soit là pour parler, quoi. Quel chiant.
Alors, on en parlait. On a tout dit.
C'est un faillot.
Il nous casse les couilles.
Non, mais j'aimerais juste rajouter, je comprends bien votre avis, que oui, c'est un film pas très intéressant et autre, et que le prétexte est nul de voyager dans le temps et de kidnapper des personnalités.
Ah non, justement, moi j'ai dit que le principe était bien, et c'est juste, sur le papier, pourquoi pas, mais après, ça se répète, c'est juste une suite de sketch.
En fait, je suis entièrement d'accord, mais ce qui me fait marrer, moi, c'est tout cet esprit où on remarque que des gros glandeurs, comme jamais, sont prêts à se décortiquer. De manière incroyable pour éviter de faire un truc chiant qui les barbe et ils sont prêts à sortir les grands moyens quoi. Et je sais pas, je pense qu'on a tous eu ça, il y a des devoirs, ça nous cassait les couilles de les faire ou autre à l'époque quand on était ado et en fait on finissait par détourner le truc pour en faire quelque chose d'énorme ou drôle et on s'éclatait avec ça et je trouve que ça reflète bien ça quoi. C'est un peu cette candeur de l'adolescence, on a juste envie de s'amuser.
Et puis même, il y a beaucoup de teen movies où c'est comme ça, ils doivent tricher, ils doivent faire un stratagème pour éviter de bosser.
Les Soudoués.
Ouais, moi j'adore ce genre d'histoire.
Ouais,
il y a un film qui est génial dans les années 90, c'est Slackers.
Ah ouais, mort.
Et ils doivent essayer de tricher et tout, ou même 4 garçons pleins d'avenir.
Bien sûr.
Et du coup, moi j'adore ce genre d'intrigue dans les teen movies. C'est à la fin, tu vois, à la fin quand tout se passe bien, t'es super content pour eux, alors que c'est juste une histoire d'examen ou de DM de maths, tu vois.
Et j'avais une question sur ce film. Je me demandais, là, il y a un parti pris, un choix éditorial qui est fait, c'est de représenter les ados comme des gogoles, en tout cas nos deux héros comme des gogoles. Est-ce que représenter l'ado gogole, ça montre pas quelque part une incapacité de l'adulte à s'emparer du sujet de l'adolescence ?
Moi, je trouve que c'est juste la réalité, quoi, en fait.
Il a raison.
C'est, voilà, c'est juste la vérité. C'est-à-dire que quand t'es un ado, t'es un gogol, t'es con. T'es
ouais, tenu, mais pas à ce point-là, quand même.
Non, là, c'est exagéré, évidemment.
C'est un peu...
C'est exagéré, mais on cherche à niquer, on n'englande pas une, on cherche à englander.
Mais non, mais c'est des surfeurs, quoi. Ils sont un peu...
On veut juste s'amuser, faire la
teuf, leur monde, quoi.
Boire... Voilà,
ils ont pris trop lactimel, les deux loustiques. Là, c'est quand même un peu... Parce que là, on est le podcast qui défend Keanu Reeves, quelles que soient les épreuves.
C'est vrai.
Mais celle-là, je la mais défends là... pas.
Ah, mais si.
Mais
si.
C'est ce qu'il a fait connaître.
Génial. Hein,
c'est ce qui a lancé sa
carrière.
Cette
épreuve, elle est...
Parce que cette coupe de cheveux, mec.
Autant l'autre est cool, autant Keanu Reeves, c'est affreux, quoi.
Ah, et puis c'est aux antipodes d'après des rôles qu'il a eu après, quoi.
Ouais.
Attends, le jeu de Keanu Reeves, désolé, ça va être visuel, mais...
Ouais, non, mais c'est
ouais,
ça.
Ah ouais, c'est ça. Je trouve qu'il ouais, il est...
C'est moi, non, moi, c'est vraiment découvert. Un clown triste dans le film.
Non, mais c'est incroyable. Mais, non, mais... Tu défends pas Keanu Reeves, mec.
C'est fini. C'est fini.
T'as perdu. C'est quoi, c'est John Wick 1
c'est pour ça que je suis parti. Je suis pas allé chercher des pizzas. C'est que je pouvais pas subir.
Mais dans la bande-annonce du 3, putain, je...
Du coup, faut
j'étais embarrassé, quoi. Enfin, je suis curieux de voir comment il va jouer là-dedans.
C'est un
mais...
peu ça hein, qui a réussi à faire en sorte qu'il soit aujourd'hui dans la programmation. C'est qu'effectivement, donc, vous l'avez dit, hein, j'imagine, pendant que j'étais pas là, mais donc très bientôt, hein, il y a un 3 qui sort. En tout cas, aux États-Unis, c'est fin août. Donc en France, je sais pas.
Clairement, ça sortira jamais.
S'il sort, c'est vrai.
C'est pas sûr.
Attends, mais ils vont dans le futur et ils se débarquent dans un monde qui est régi par le pop rock. Enfin, qui est régi.
Ouais. Sûrement un
c'est
beau fort, projet.
C'est des idées à la con, mais c'est.
Non, mais en vrai.
Ils l'ont mis en image.
Ça fait 10 ans.
J'insulte, mais. Ouais, mais je suis assez d'accord sur ce parti, effectivement, Google, on fait un exposé, on va chercher, et on claque des dabs à Socrate, quoi. Enfin, c'est effectivement, le film a fini par me charmer, moi, au bout d'un moment, tellement, de la couche de Google sur de la gogolitude, ça te fait des jolies lasagnes de débilité qui est intéressante. Ma question, vous la connaissez, hein. Au bout d'un moment, ça fait combien d'émissions de Parents Peluche qu'on est ensemble? Vous ne devez en choisir qu'un. Et bon, on connaît le gagnant, mais il y aura peut-être des subtilités. Béa.
La boum.
David.
Breakfast Club,
Antoine.
Breakfast Club.
Fouad.
La boum.
Je vais dire Bill & Ted, allez.
Bill & Ted, c'est vrai.
Ouais, pour le défendre un peu. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment.
Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé.
Ah, donc j'ai
Breakfast Club,
c'est
merci, c'est l'évidence.
C'est un bon film de dimanche après-midi.
Soit Madeleine, soit Breakfast, ouais. Mais moi, je vais dire quand même Breakfast. Parce que moi, ça doit être dans mon top, comme David, un top 30. J'ai peu parlé du film aujourd'hui, mais en tout cas. Si vous ne l'avez pas dans votre filmographie, clairement, foncez dessus.
Et moi, je tiens quand même à préciser un truc, c'est que Bill & Ted a pris la place de Outsiders,
ouais,
de Coppola.
Mais à quelle occasion pour parler d'Outsiders ?
Et je m'en veux parce que j'ai pas soutenu Béa, parce que j'avais vu Bill & Ted. Et
on a oublié de parler de Fouad qui a dit pourquoi t'as pas voulu regarder Outsiders.
Je l'ai parce que j'avais déjà vu Bill & Ted. Bill & Ted, en fait, j'avais la flemme.
Dis-le à la France.
Voilà.
Fouad participe à un des meilleurs podcasts de cinéma du monde, d'Europe au moins. Et là, la flemme.
Parce que voilà, j'avais pas le temps, j'ai pas trouvé le temps de. Je me suis dit, je vais pas pouvoir revoir Outsiders parce que quand même, je peux pas. Je voulais le revoir avant d'en parler ici. Et il a manqué ma voix pour. Faire basculer le vote.
Ça n'aurait pas trop
et
fait
voilà,
basculer,
Béa,
je pense. Hein.
Désolé, c'est la dernière
c'est
fois.
C'est comme ça que le Front National passera en France,
je
les
te
amis.
Fais bon.
Mais
la prochaine
eh oui,
fois,
et ben, c'est
fois,
surtout que je comptais tellement sur toi et tu m'as lâchement.
Mais fois, je te tends des bâtons pour que tu mettes dans ma transition dans quelle séquence tu auras l'occasion de parler de Outsiders dans.
Non, que dalle. C'est moi qui parlerai d'Outsiders.
Ah non, mais non. Mais...
Alors là, que dalle.
Moi,
alors là, que dalle.
J'en ai un autre.
Et dans quelle séquence?
Dans le You Fuck My Wife.
Mais voilà, vous avez mis tellement de temps.
You fuck my wife.
Donc après avoir vu 3 teen movies datant des années 80, nous allons nous intéresser à nos références de cette période autour de la table. Quels sont vos teen des années 80 de référence? Hein, il y aura
teen movie,
pardon. Ouais, sinon Lindsay Lohan, tout ça. Pas du tout. Il y aura Outsider, je pense, dans l'histoire, non, David?
Non, même pas, tu vois. J'ai jamais vu Outsider, et c'est bien. Non, bah évidemment, je vais mettre Retour vers le futur, parce que bon, c'est quand même le teen movie ultime. Et en gros, tout John Hughes, parce que bon, on a parlé de Ferris Bueller, mais je vais rajouter aussi...
16 Candles.
Non, j'ai pas vu 16 Candles, parce qu'en fait, je suis moins dans ces... En fait, j'étais moins attiré dans le côté bluette. Par contre, Weird Science, c'est une créature de rêve. J'adore, j'adore Code Lisa, la série.
Ouais.
Enfin, vraiment, c'est, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs John Hughes. Stand By Me, qui est génial. Un qui est aussi
Stand
dans
By Me, évidemment.
Ouais, un qui est dans mes références, mais je vais laisser Fouad d'en parler.
Ah ouais, ouais.
Et après, bah, c'est toutes les productions Amblin, tu vois, Gremlin, City, c'est des teen movies au final. Tu vois, on a parlé des Goonies il y a pas longtemps, c'est aussi là-dedans. Et je vais rajouter un petit The Monster Squad, qui est un peu genre film d'Halloween réalisé par Fred Dekker et écrit par Shane Black, mais
Shane Black. Sympa.
Mais tu vois, c'est vraiment un teen movie. Et tu vois, en fait, le problème avec les teen movies, c'est que en fait après tu touches d'autres genres. C'est-à-dire que dans les années 80, les teen movies, c'était vraiment un ensemble de trucs. Donc vampire, vous avez dit vampire. Est-ce que c'est un teen movie? J'ai envie de dire oui, mais c'est en même temps un petit peu un film d'horreur. Et après t'as des trucs genre Teen Wolf. C'est aussi un teen movie, mais en même temps, c'est plus. C'est plus
même
rigolo.
Les griffes de la nuit, vendredi 13.
C'est film d'horreur.
C'est quand même des ados.
Des slashers. Hein.
C'est la définition que donnait Thomas tout à l'heure. Les teen movies, ça parle de l'adolescence, des problèmes de l'adolescence, mais c'est aussi juste tu filmes des adolescents qui vivent quelque chose. Donc pour moi, ça marche.
Donc du coup, après, tu peux rajouter War Games, Big, le premier Tom Cruise, Risky Business. Et après, je vais rajouter un que j'aime beaucoup, même si c'est objectivement pas un bon film, Explorer de Joe Dante. C'est pas un bon film.
Ouais,
c'est raté dans tous les coins.
C'est bien de le mettre dans les refs.
Mais c'est pour ça que j'adore.
Il est long. Hein.
Et je rajoute.
Il rajoute même des films qu'il aime pas.
Génération perdue. Et Joel Schumacher, alors que je déteste Joel Schumacher. Mais pour le coup, c'est un vrai bon film qui représente parfaitement les années 80, autant dans l'esthétique que dans ce que ça raconte.
On va peut-être remettre une couche de John Hughes avec Antoine.
Oh bah,
je vais mourir. En direct. Non, c'est bon.
J'ai surtout envie de parler de Ferris Bueller, qui est vraiment mon top 1 des films de tous les temps, de toute façon. C'est un film de cœur pour moi, c'est un film que j'ai vu bien trop de fois, que j'ai montré à beaucoup trop de monde, avec beaucoup trop d'entrain, et du coup ils font « Ouais, pas si ouf, ton film préféré !» Mais
c'est un peu compliqué,
mais je trouve que ce film est génial.
Et il y a une photo d'Antoine qui refait la pose de Ferris Bueller dans le musée.
Putain, c'est vrai. C'est vrai que
il existe,
avec,
c'est
avec
vrai.
Mes deux meilleurs potes.
Ah ok,
c'est
vrai, j'avais pas fait le lien.
C'est
ah
vrai.
Ouais, excellent.
C'est exactement ça. Ouais, putain, c'est vrai.
On la mettra en cover de l'émission.
Ouais, si tu veux, ça.
Putain, oui.
Ouais, si tu veux, ça.
Marlon Péloche a changé sa photo de couverture.
Non, Ferris Bueller, c'est génial. C'est vraiment incroyable dans tout le fond comme dans la forme, quoi. La forme, tu pars sur juste une journée de sèche, quoi, une journée d'école buissonnière qui sera de plus en plus grandiloquente, quoi. Ça va pousser les compteurs jusqu'au bout, ça va jusqu'à prendre d'assaut une fanfare, une parade, un défilé. Ça raconte des histoires d'adolescents autant d'amour que de reconnaissance.
Et le monologue, l'intro, l'outro.
Tout est fabuleux. Ça joue aussi un peu sur ce côté où ils veulent tricher, mais pas forcément. C'est fabuleux. Je ne peux que conseiller Ferris Bueller. Alors regardez-le en vous disant, bon, ok, c'est un film normal, mais Antoine le conseille quand même, donc on va le regarder.
Je fonds la caisse là-dessus.
Pour moi, c'est un film qui me donne la banane et le sourire toute ma vie. Et après, rapidement, bah, je suis comme vous, hein, tout le reste est John Hughes. J'avais mis aussi, un peu différent, mais j'y ai repensé à chaque fois. C'était Karate Kid.
Ouais.
Karate Kid qui est aussi une grande marque de l'adolescence. C'est juste un gamin qui dit bah, putain, je viens de déménager à un endroit, qu'est-ce que je dois faire en fait pour m'intégrer? Et il apprend le karaté.
On en parlera de Karate Kid dans les films de sport des années 80. Évidemment, le coup du faucon, je sais plus. Tristan.
Tout a été à peu près dit. Moi, en français, je vais rajouter du coup Les Sous-doués.
Ouais,
premier du nom.
Ouais, c'est un film de.
Et Les Sous-doués passent leur bac.
C'est un chien. Les scènes de début des Sous-doués, c'est ni plus ni moins que les scènes du début.
C'est un chef d'œuvre.
C'est
bouleversant.
Daniel Auteuil, Daniel Auteuil en mobilette, quoi. Daniel Auteuil en mobilette, quoi. C'est génial.
C'est de là d'où vient cette.
Emma Meul. C'est génial.
Voler Emma Meul.
C'est tellement culte. Et puis, à chaque fois que je passe un examen, j'ai des images en tête de triche et c'est. Pour moi, ça restera là.
Et en fait, ça a mal vieilli, mais dans le bon sens du terme.
Oui, tu le revois.
Avec Bruce, quoi. L'appel.
Ça a du grain.
Voilà. Une planche en haut de la porte pour que Bruce se prenne la porte.
Ouais, on en est.
Tellement il est grand, c'est génial.
Et Napoléon qui fait du toboggan.
Et après que j'ai découvert que j'avais pas vu, et j'ai adoré Footloose.
Ah, mais bien sûr, après, Kevin je l'enlève
Bacon.
De mes références. Bah, oui.
Désolé,
c'est bien.
Ah,
non, je t'en prie,
c'est le dernier qui te reste.
Moi non plus.
Non, non,
eh ben, j'ai adoré, mais j'adore la danse.
Ah, mais.
Ouais, voilà, hein.
Dans le Bacon.
Je suis un gros danseur. Hein.
Mais canon, ah, ouais. Ce film. C'est un, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, vas-y, pardon.
Bah, il est, bah, Kevin Bacon est magnifique. Quoi. Il est vraiment, je pense, dans la fleur de l'âge. Quoi. Il est...
Moi, j'ai toujours été. Je sais plus le mot, mais toujours.
Et son crush est magnifique. C'est sa meuf. La meuf, je sais plus le nom de l'actrice, mais.
Moi, j'ai été refroidi par le sujet du film. Une ville où t'as pas le droit de danser.
Ouais. Oui, mais ça s'explique. Oui. Enfin, ils expliquent pourquoi, ouais. En fait. Il oui. Y a eu, c'est parce qu'il y a eu un drame.
Et John Lithgow, il est génial
oui,
aussi dedans.
Oui, bien sûr, celui qui fait.
Ah, vous savez quoi, je vais regarder Footloose cette semaine.
Ah non, mais c'est canon.
Si tu veux,
parce
je te prendrai la Corée.
À la fin, t'as envie de danser. Ouais. T'as envie d'être.
Exactement.
Ça ressemble à Dirty Dancing, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout. C'est vraiment l'ado qui arrive et qui arrive donc dans cette ville où effectivement tu ne peux pas danser, tu peux pas faire la fête. Et lui, il veut redonner la liberté à tout ça et donc ça passe par la danse. Et
il dit vous n'aurez pas ma liberté de danser.
c'est une prod Don Simpson.
Hein?
C'est une prod Don Simpson, je crois.
Je sais pas.
Don Simpson.
Clouza, peut-être, je sais plus. Ouais. Je l'ai jamais vu. Il y a eu un remake, hein, je crois.
J'adore.
Qui est pas bien, qui est pas bien. Alors, c'est pas qu'il est. Enfin, si, il est pas bien, mais il est sur Netflix, tu peux le voir.
Il y a Foot
c'est
de rue
exactement
aussi.
les mêmes répliques, ouais. Le même.
Il y a des caméos des anciens quoi. Acteurs ou pas
je sais pas, j'ai pas regardé jusqu'au bout en fait.
D'accord. Ouais, je vais peut-être voir.
Béa, tu peux enchaîner avec tes refs.
T'avais fini,
c'est bon.
Tristan ?
Ouais, ouais.
Je vais parler du coup que de deux films. Ok ? C'est bien, non ? Bah, il y a eu beaucoup de choses de dites.
La Boom 2.
Je vais parler de Outsiders.
Ah !
Connais pas.
Donc, Coppola, quand même. Francis Ford Coppola.
Il y a des toboggans
à 83.
Alors, mais, vu que t'en as parlé, je l'ai vu.
Tom Cruise.
Ah.
Tom Cruise.
Ah.
Je l'ai vu là, j'ai adoré.
Et
c'est vrai qu'il y aurait eu Tom Cruise à Aqualude. Il aurait peut-être pu être dans la prog.
Donc, juste pour vous placer l'histoire, si vous ne la connaissez pas. Donc, c'est l'histoire. Donc, ça se passe en Oklahoma, à la fin des années 60. Il y a deux gangs qui s'affrontent. Les Greasers, qui viennent des quartiers défavorisés, et les Sox, qui sont des fils de bourgeois.
Si c'est les années 60, c'est
pas
les Greasers. Les Greasers.
On peut dire que c'est des loubards.
On peut dire que c'est des loubards, c'est pour ça que ça me plaît. Et donc, suite à une bagarre, en fait, il y a un gamin des Sox qui meurt et deux mecs des Greasers qui doivent fuir la police. Et alors, juste côté casting, c'est juste jouissif. Enfin, ouais. C'est un truc de dingue. On a donc justement le Karate Kid de Ralph Macchio, Matt Dillon, Patrick Swayze, Tom Cruise qui avait encore ses dents pas refaites, Emilio Estevez, et le magnifique Rob Lowe qui restera à tout jamais mon amoureux de cinéma, je vous l'ai déjà dit, mais c'est lui mon amoureux.
Il y en a eu pas mal.
Non, ouais.
Eh ben, regarde Hotel New
Hampshire.
Regarde, j'ai la liste. Il y a Eli Schwaki, il y a. Il y a plein.
Il y a Sébastien le Loubar de Sylvain.
On est loin de la comédie.
On m'a déjà dit que je ressemblais à Matt Dillon, moi.
Le mec qui se la
pète. Pas mal.
Ah oui, Rob Lowe, effectivement.
Ah non, mais Rob Lowe, mais laisse-moi. Non, mais je vais parler dans ma deuxième référence. Mais donc. En tout cas, sur Outsiders, on est vraiment loin de la comédie adolescente. C'est clairement un drame, en fait. Mais avec la volonté, comme dans les teen movies, de les faire se pencher sur c'est quoi la vie, qu'est-ce que je vais en faire, quel est le sens de la jeunesse.
Où ça va les mener, voilà. Quoi, tout ça.
Où ça va les mener. Alors, c'est un film de Coppola. Je trouve qu'il y a certains films de Coppola qui ont un peu vieilli. Et c'est un peu le cas de celui-là. Enfin, c'est parce qu'il est très stylisé en fait. Donc, il y a peu de lourdeur, mais ils sont tellement beaux. Il y a une BO extraordinaire avec du Presley, avec Stevie Wonder. Enfin, et c'est un appel à la paix, à la tolérance. Enfin, pour moi, c'est un film forcément référence des années 80. On laissera le peuple parler par rapport à Bill and Ted. Voilà.
Le peuple parlera. Est-ce qu'ils sortent un Outsider 3
Avant de te faire passer sur ta deuxième ref, en vrai, dans Bill and Ted, il y a Napoléon qui fait du topo.
Napoléon à quoi boulevard?
Non, mais ça,
alors.
C'est
en Marseille.
En fait. Non, mais c'est
Napoléon
préférée,
qui parle
mais...
pas français, qui sait pas parler français. Quoi.
Arrête. Oh là là.
En fait, c'est génial. Arrête. C'est le meilleur film de tous les temps. Mais il a peut-être ça y est,
c'est
ça vient.
Napoléon qui parle même pas français.
Il fait du toboggan, il kiffe. Vous m'avez fait regarder ça, putain.
Mais en vieille culotte d'avant, en plus, quoi.
Pardon, mais deuxième référence.
Et deuxième référence.
Tu m'as convaincu de regarder Outsider, je te le dis tout de suite.
Oui, oui, voilà. Et alors, deuxième référence.
Tu t'en fous, apparemment.
Tu t'en fous de m'avoir convaincu.
Pas du tout, pas du tout, mais j'espère. j'ai convaincu Tristan et il a adoré. Donc, deuxième référence. Alors, c'est un truc vraiment de midinette, mais justement, parce que j'aime Rob Lowe, c'est Youngblood, dont je vous ai déjà parlé, je pense, ouais, dans les films de sport. Et c'est un film donc de 86 où il y a aussi Keanu Reeves, mais en un tout petit rôle, mais il est dedans. Il y a Patrick Swayze, et en fait, d'ailleurs, après avoir revu Outsiders, et après avoir revu, il n'y a pas très longtemps, Point Break, et Dirty Dancing, en fait, Patrick Swayze, en fait, c'est un mec extraordinaire aussi. Enfin, non, mais alors, ça paraît con de le découvrir maintenant, mais en fait... je pense que j'avais un peu une image...
Il a l'image de Dirty Dancing, qui est un peu biaisée.
Et en fait, ce mec, il est quand il est il face fait à la quoi. Caméra, il est tellement... Il crève tout, quoi.
T'as déjà vu Roadhouse?
Et oui.
C'est génial. Il va péter des bras et en même temps, il y cante. C'est génial.
Et donc, Youngblood, il se trouve juste que moi, je focalisais. Alors, pour la petite histoire, Youngblood, quand il est sorti, je l'ai vu 3 fois en 10 jours. J'étais, mais raide de dingue. Et encore aujourd'hui, je l'ai revu là pour l'émission. Et en fait, je sais pas si vous voyez ma tête là, mais. Mais je le regarde, mais en plus, il est à moitié à poil pendant tout le long du film.
Ouais, salope.
Ça me rend dingue. Et ce mec est mon idéal masculin de tous les temps. C'est horrible. C'est horrible. Mais je te jure, ça me met dans un état.
Après, remets ton t-shirt quand même. j'en connais une qui est bien déconfinée. Hein.
Non, mais l'histoire, elle est quand même cool. Ça se passe dans le milieu du hockey, on connaît pas trop. Et en fait, donc Rob Lowe,
il est paysan,
et en fait, mais d'une famille en fait où son frère en fait a fait du hockey, et en fait sa carrière a été arrêtée parce qu'il s'est blessé, donc le père ne veut pas que l'autre gamin en fasse.
C'est Mighty Ducks.
Et en fait, lui, il y va quand même, et il devient. Regardez-le. J'ai même pas si j'ai envie de vous le conseiller, parce que. Mais les filles, regardez-le.
Ah, d'accord. Voilà. On est là, bisous.
Voilà. Non, c'est un. Mais pour le coup, c'est un bon teen movie, quoi.
Il est hilarant, Rob Lowe dans Parks and Rec.
Ouais.
Non, mais c'est un super acteur. Et je comprends pas. Et sincèrement, il est 10 fois plus beau que Tom Cruise, il est 10 fois plus beau que Brad Pitt. Et pourtant, Brad Pitt.
Il n'y a pas que ça dans la vie. Quelqu'un qui est beaucoup plus beau que Brad Pitt aussi, c'est Fouad autour de la table qui n'a pas encore dit ses références. Fouad, mon petit préféré, Fouad, finalement. Ses références. C'est comme ça.
Moi, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, c'est Heathers. H-E-A-T-H-E-R-S. Heathers. De Michael Lehman. C'est le réalisateur, c'est lui qui a fait, 2 ans après, il a fait Hudson Hawk avec Bruce Willis. C'est un teen movie que j'adore. Franchement, je crois que c'est vraiment, il fait partie de mes tout préférés. Parce qu'il prend le contre-pied du teen movie de l'époque. C'est un teen movie qui est méchant, en fait.
Vous permettez de dire qu'il s'appelle Fatal Games, dans la distribution française.
Ouais,
titre français bien pour
un. C'est nul à chier, quoi.
Et en québécois
Série noire au campus.
D'accord,
c'est même mieux.
Voilà. Il prend le contre-pied du teen movie de l'époque, c'est-à-dire que c'est un film sarcastique, acide, très méchant et très violent parfois. Vraiment un milieu du teen movie des années 80 et qui est infiniment plus intéressant dans la mesure où il met à jour, il évoque la nature violente des ados. Parce que quand on est ado, on est plein d'hormones, on est plein d'énergie et on est parfois coupable d'actes de violence terribles. Et c'est aussi un film qui évoque le suicide indirectement, ou même très directement, et tout en étant drôle, très acide, très sarcastique. Et Heathers, c'est le nom des 4 nanas qui sont les reines de beauté du campus. Et toutes les 4, elles s'appellent Heather, en fait. Elles ont le même prénom. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture est savoureuse. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle te donne la tonalité du film. Et le film a raconté la vengeance de Winona Ryder sur ces nanas-là, en fait. Donc, il y a des scènes de violence. Elle tombe amoureuse du voyou qui est Christian Slater.
Du loubar,
ouais, autant pour moi. Et c'est un film qui a été porté par son scénariste qui s'appelle Daniel Waters, qui est un grand scénariste américain qui a notamment écrit Batman le défi, qui est un scénariste comme ça, qui se caractérise vraiment par un style très caustique, très acide. Et quand il a écrit ce film, il a dit, si Stanley Kubrick devait faire un teen movie, ça serait celui-là.
Ouais.
Et il l'a proposé à Stanley Kubrick. Bon, alors, je sais pas, je crois qu'il a eu jamais, il a jamais eu une réponse. Et il voulait que ce soit vraiment le Stanley Kubrick des films, des teen movies, quoi. C'est dire l'ambition qu'il avait. Et quand tu regardes le film, franchement, tu comprends. Bon, il est allé un peu loin en se comparant à Kubrick, mais franchement, c'est un teen movie qui se démarque, qui vaut vraiment le coup d'œil.
Et moi, il y a une citation que je dis souvent, s'il y a bien une chronique que je voudrais pas dans cette émission, c'est celle qui arrive tout de suite. On passe aux pilules bleues, pilules rouges.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
Antoine, c'est Tipar.
Alors les gamins, on se calme. Vous êtes en retenue avec moi. Et vous allez pas me la faire, je vous connais par cœur. Ça fait des mois que je vous suis là. Plus de 80 émissions que je vous regarde, à vous balader dans les couloirs, à taper sur les carreaux, à coller vos chewing-gums sous les sièges. Alors,
vas-y,
vous êtes tous ici.
Mange mon slip.
T'as dit quoi ?
Mange mon slip.
T'as dit quoi ? Écoute-moi, Tristan l'athlète. Tu as pas pu te faire le malin. Parce que vous êtes tous réunis.
Et excusez-moi, il y a Colombo qui m'a envoyé un message pour me dire que vous lui avez piqué son blouson.
Ok, on se calme. Ok. Donc je répète, vous êtes tous cartographiés. Faites tous
comment ?
Quoi ? Je suis dyslexique et prof de sport, y'a un souci ? Moi je suis agent d'entretien dans mon cœur. Alors Tristan, l'athlète, on a aussi Béa, la populaire, Fouad, le surdoué, Thomas, le chef du club de ballon sauteur, et David, le délinquant sexuel. Vous avez 4 heures. 4 heures et pas une heure de plus pour résoudre ces 6 jeux de mots. Sur deux films, il y a Outsiders et Karate Kid, alors me décevez pas. Parce que ce qui dépend de ça, c'est votre passage en seconde.
En seconde.
En seconde.
En Suisse, apparemment.
Allez, moi, je vais faire des mots croisés. Démerdez-vous avec ce que je vais vous dire.
Oh. Sortie de personnage.
Allô.
Et moi, je me concentrais pour faire un fondu. Du coup, j'ai pas du tout animé, François.
Alors.
Pour rappel, donc pilule bleue, pilule rouge, prends un film. Pour rappel, les petits merdeux.
En particulier, quand même.
Pilule bleue, pilule rouge, bah, j'ai pris le film et j'ai fait des jeux de mots avec. Hein.
Ok.
Un peu les mots valises. Alors, les films, c'est Outsiders et Karate Kid. Pour rappel, Outsiders, c'est des délinquants qui tapent sur des bourgeois qui puent. Et Karate Kid, c'est un petit bourgeois qui apprend à taper sur des délinquants grâce à un vieux qui pue.
Ils sont géniaux. N'empêche, ça pourrait vraiment être un autre jeu, ça. Antoine qui nous fait des synopsis, on a trouvé quel film.
Ouais, c'est bien ça.
Alors.
Ça peut être différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais va, moi.
Tu veux faire une chronique, David ?
Alors, c'est des délinquants qui tapent sur des bourgeois qui puent parce qu'ils veulent le compte épargne-temps de Justin Timberlake imprimé sur son bras.
Ah ouais, Time Outsider.
Time Outsiders, très bonne réponse de Thomas et Béa.
Thomas et Béa, quand même. Vous entendez bien la musique, vous ?
Un peu.
Ouais. Un peu faible.
Éloigné. Un peu DJ. Vous entendez bien la musique, vous ?
Ah là là, l'enchaînement !
C'est chaud, Thomas !
Non ?
C'est un petit bourgeois qui apprend à taper sur des délinquants grâce à un vieux qui pue et des animaux du zoo de New York qui retournent à la vie sauvage.
Attends, c'est quoi
le... Nuit au musée.
Non, des animaux de New York.
Madagascar était kid.
Madagascar était kid.
Vous voyez plus le nom de ce dessin animé de merde.
Yes, bah ouais, du coup, je sais plus avec quel symbole.
C'est un enchaînement.
C'est des délinquants qui tapent sur des bourgeois qui puent car ils invitent et hypnotisent les compagnons de leur fille noire.
Get Outsiders.
Oh. Get Outsiders, très bonne réponse.
Lui.
Yes, ça.
Ouh, ça a l'air nul, d'après. Ouh, ça a l'air nul. Ouh, il rigole. Ça a l'air nul.
Ça va être du politique.
Je vais le garder pour la fin, celui-là.
Oh.
Le teasing.
Il en reste plus que deux.
Oui.
Non, là, on est à trois.
C'est ça. Il en reste plus que deux. C'est des délinquants qui te...
Ça n'intéresse que toi, Antoine. C'est pour te faire plaisir qu'il y a tout ça.
C'est des délinquants qui t'assurent des bourgeois qui puent, notamment le jeune Queen Mallory qui passe de monde parallèle en monde parallèle.
Outsiders.
Outsiders et monde parallèle. Très bonne réponse.
J'adorais cette série.
Et donc, pour la fin, c'est un petit bourgeois qui apprend à taper sur des délinquants grâce à un vieux qui pue et de Daniel Auteuil dans le film
Le plein Karate Kid. Ah oui. Ah, je te l'offre ce point, Tristan.
Merci.
Il existe vraiment.
Le plein Karate Kid.
Vraiment.
Mais il n'y en a que 5, il n'y en a pas eu 6.
Mais c'est fou parce que je suis en train de réaliser que Karate Kid et le placard, c'est aussi le même schéma. C'est un vieux qui apprend à un mec quoi faire dans la vie pour s'en sortir.
C'est vrai que j'ai jamais vu le placard quand même.
Non, oh, et c'est, t'adorerais, c'est un super film.
Ah oui, non, mais je c'est pas vachement pour rien, bien. Hein, c'est génial.
Ah non, c'est cool.
Vous êtes sérieux? Ah ouais, non, vous m'obligez pas.
Depardieu, excellent.
Et les Francis Weber, c'est drôle.
Ouais.
Très bien.
C'est un bon pignon.
Ah non, ouais, c'est trop trop bien.
C'est un très très bon pignon.
C'est un des derniers bons pignons d'ailleurs.
Ok, ok, ok.
C'est la digression supplémentaire de cette émission. Hein, parce qu'on
j'ai regardé Fred, il avait l'air sincère dans ses yeux.
Ouais, non, mais.
Ok.
Alors attendez.
Attention, oui. Attendez, attendez, le revoir. Chut, 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 le personnage. Chut, le voilà.
Vous êtes déjà tous sortis de la salle et je reçois un petit papier qui me dit que. Vous êtes un peu tous des athlètes, des filles populaires, des surdoués, des chefs de club de ballon sauteur et surtout des délinquants sexuels. Et je vous comprends, jeunes adolescents. Je suis avec vous et je vous souhaite bon vent.
Voilà, tous fait un pas en avant, effectivement. Mais monsieur, hein, le proviseur, faut jamais encourager la délinquance sexuelle. Je vous le dis, hein, pour l'avenir. Hein, mais voilà. En tout cas, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'aller au cinéma parce que ça y est, les gars, c'est réouvert. Alors, un siège sur deux avec un masque, faites attention. Voilà, mais retournez au cinéma parce que ça fait partie des industries à relancer, évidemment. On est content d'avoir passé du temps avec vous, de vous avoir fait peut-être découvrir ou redécouvrir des choses, hein, c'est ça le charme des années 80. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. La petite cloche, voilà. Abonnez-vous, ne loupez aucune notification sur mes nouvelles vidéos. Et suivez-nous sur les réseaux de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Skyrock. Et on se retrouve dans 15 jours pour aborder une autre thématique, hein. On reviendra peut-être dans le présent. Et en attendant, on essaie de se choper un petit peu, mais quand même à distance, avec un check de coude dans les salles obscures. En attendant,
bonsoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Salut.
Au
revoir.
Salut.
Là, normalement, tu dis Buscavida, c'est ça?
La mer noire. Oh là là là, on est énervé, hein?
Non, mais en vrai, peut-être.
On est content de se revoir.
Oui. Est-ce que je suis viré de l'émission?
Non, c'est pas tout de suite, mais. À la réouverture des pôles emploi. C'est bien d'en parler, de commencer à.
À réouverture des bureaux Pôle emploi. Du Pôle emploi spectacle.
En fait, j'essaie de trouver la manière la plus humiliante possible. Et j'ai pas encore trouvé.
C'est ton projet de ce soir.
T'as qu'à demander à ma mère de me l'annoncer.
Par exemple, en direct.
Non, mais il faut.
Au Stade de France. Ouais. Mais non.
Les teen movies. Attends, c'est quoi déjà les films?
Oh, c'est moi un petit peu de merde.
Putain, et arrête de faire le touriste. Fouette,
et Bill and Ted.
Je fais pas le touriste.
Bah, si.
Je me remémore, je les ai vus.
Bon, de toute façon.
Avec la carte Kiwi.
On peut éteindre cette putain de lumière horrible et allumer un truc derrière.
On est parti.
Allez, c'est y part.
Ok, Google, écarte le cul.
Super, comme ça.
Ok, Google.
Et ça, c'est dans la boîte.
Ouais, ça, c'est dans la boîte. Merci, Antoine, parce que là, il n'y avait plus beaucoup de off. Google sur les... Attaque, c'est trop bien. On est vraiment des mecs inefficaces. Rendez-vous 20h, il est 21h11. Rien dans la boîte.
On est parti.
On y va, ouais, allez go.
Je suis peut-être pas complètement.
C'est y par la famille.
Allez, on est parti.
Il
faut qu'on commande les pizzas.
3, 2, allez, 1. Go. Ouais, on fera. De toute façon, l'émission là, dans 30 minutes, c'est plié. Alors, on est parti.
Logiquement.
3, 2, 1.